on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi, les amis. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission On en jase, votre rendez-vous du midi maintenant. De midi à 14h, on jase de plein de choses d'actualité, de politique. Pour nous joindre et réagir comme vous le faites toujours si bien, c'est le 418-971-1021. 418-780-1021, ça avait le goût de nous lâcher un petit coup de fil. BLVD.fm, ça inclut la web radio et nos meilleurs moments. Notre application Boulevard 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Et également twitch.tv/BLVD/FM. Avec moi pour une dernière journée en attendant le retour de Pascal CV, Spice CP jeudi. Demain, je passerai l'émission entière avec Antonine Iaccarini. Mathias Turcotte, comment ça va?
Ça va très bien. Bien reposé. Une fin de semaine de trois jours, ça fait toujours du bien. J'entendais Marceau ce matin qui disait il y a certaines personnes qui sont un peu plus difficiles de revenir, reprendre le beat. Mm-hmm. Moi, au contraire, je sais pas. Je suis zen après une fin de semaine de trois jours. Fait que aujourd'hui, je suis zen. Je suis relax. On s'est bien reposé. On a repris d'énergie. Puis on est d'attaque pour cette dernière émission-là déjà. Ça a passé vite, deux semaines et demie. En ta compagnie, Jeff.
418-971-1021, si vous voulez envoyer vos messages d'appréciation pour Mathias. Moi, je n'ai que du positif à lui donner. Un gars qui travaille très, très, très fort et qui est toujours à l'affût de la nouvelle. Donc, très heureux de travailler avec toi. Puis, je suis convaincu que tu vas venir faire du remplacement, mon ami.
Oh oui, oui. Il n'y a pas de stress de ce côté.
Exactement. Parlant de gars, par exemple, qui n'a pas eu de fin de semaine de trois jours, et c'est normal, on est en campagne électorale. Puis, je me suis même déplacé, moi, dans ma fin de semaine de trois jours pour aller le voir hier. On reçoit le chef de Leadership Québec et candidat à la mairie de Québec, Sam Hamad. Monsieur Hamad, comment allez-vous?
Ça va très bien, Jeff. Ouais. Puis, je veux saluer Mathias aussi. Bonne chance. Retour aux études, c'est une bonne décision.
Ah.
Et pour être mieux encore pour le futur.
Exactement.
Monsieur Hamad, vous avez fait une très belle annonce hier. Vous avez parlé de secteur aquatique, surtout d'un centre aquatique moderne à Charlebourg. Pouvez-vous nous en parler un peu plus?
Ben, en fait, c'est que les gens de Charlebourg, là, des monts, là, on les a promis en 2021 un centre aquatique. Et évidemment, on n'a jamais livré. On n'a jamais rien fait. La population augmente dans ce coin-là.
Vraiment?
Et les besoins augmentent, besoins des familles. Il y a beaucoup de familles dans ce coin-là. Et aussi, il y a des gens, des personnes âgées qui veulent pratiquer des sports, ils veulent être en mouvement, ce qu'on souhaite tous. Et finalement, il n'y a rien fait. Donc, on a décidé, nous, de prioriser ce projet-là le plus rapidement possible et répondre aux attentes des citoyens. Ça ne vient pas de nous, là. Nous, là, tout notre programme, là, il est basé sur une chose.
Allez-y.
On rencontre les citoyens, on voit leurs besoins, on voit la faisabilité et on veut travailler pour les citoyens. C'est ça, une ville.
Oui, ça fait plusieurs fois, justement, que j'assiste à vos annonces. Et ce que j'en comprends, c'est que vous reprenez tout simplement des priorités par secteur et vous faites des annonces par rapport à ça. Et là, des priorités, comme vous le dites, qui n'ont pas été répondues par l'administration Marchand.
Absolument. On a rencontré le centre de loisirs là-bas. Les gens, toujours, partout où je vois, déception. Tu sais, l'autre fois, on a parlé du centre Savard, là, dans le Bourg-Neuf. Grande déception des gens qui travaillent fort. C'est des bénévoles. Hein,
oui, il y a une boîte électrique qui est là, puis ça ne sert à rien. On avait commencé les travaux, puis on arrêtait ça.
Ils ont mis une grosse boîte électrique qui ne fonctionne pas. Et ça fait pitié, ce centre-là. Mmh. C'est partout, l'histoire. À Cap-Rouge, c'est la même chose. Limoilou, dans la piscine Ferland.
Ouais.
Alors, il y a plein d'infrastructures à Québec, on néglige. Mais ce qui est décevant, là, ce que notre annonce hier, c'est qu'on était devant le centre de curling.
Oui, le fameux centre qui coûte 38-39
millions. 38
millions,
puis là, on ajoute un autre 2 millions en passant ailleurs pour les Jeux du Canada. Moi, j'ai rien contre les Jeux du Canada, au contraire, ils sont les bienvenus. J'ai rien contre le curling, mais le problème, c'est qu'on investit 38 millions de la Ville de Québec.
Mm-hmm.
C'est les taxes des citoyens qu'on prend directement à faire ce centre-là. Puis c'est le Jeu du Canada. Alors, le principe, en général, si le Jeu du Canada va avoir place chez nous, ils sont bienvenus. Maintenant, on va le dire, c'est le Jeu du Canada, donc vous, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, vous allez payer. C'est pas aux citoyens de la ville payer pour ce jeu-là. On peut payer une partie parce qu'on va avoir des retombées, mais pas toute la facture.
Non.
Puis en même temps, lorsqu'on paye toute la facture, on retarde des projets comme centre aquatique, les piscines, etc.
Ah oui, puis centre aquatique, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, je vous parle en tant que citoyen parce que quand je me retrouve à l'Arpidrome de Charlebourg en plein hockey avec mes gars puis qu'il y a des compétitions de natation, camions, manque de stationnement, il manque de place, il manque d'équipement pour tout ce beau monde. Ça me fait penser au projet de palais gymnastique qui avait été fait sous l'administration Régis Labonde,
oui,
là, dans ce coin-là.
Exactement. Puis il y avait un plan aquatique qui était prévu pour à travers la ville, mm-hmm. mais ce plan-là a été fait en 2021. On l'a tassé. On le verra maintenant si on essaie d'aller dans le site Internet de la ville, il n'est plus là. Et c'est ça, les besoins. C'est ça qu'on veut ramener mm-hmm. la ville aux besoins essentiels de nos citoyens.
Puis je termine sur les Jeux du Canada, surtout que Québec a pris le relais de la ville de Yukon qui n'était plus capable de les organiser. Fait que me semble que le gouvernement du Canada aurait-tu déplié, là? On l'aura quand même sauvé à la face, là.
Mais oui. Mais là, qui paye, encore une fois, les citoyens?
Exactement.
Puis 38 millions, là, c'est presque 2 % d'augmentation de taxes foncières.
Hey, c'est énorme, hein?
C'est tout le monde paye, là.
Mm-hmm. Non, vous avez entièrement raison. Avant de parler du SRB,
oui.
un projet qui me passionne,
oui.
et une très bonne nouvelle de financement pour le SRB, pas le choix de revenir sur cette fameuse demande d'association, de respect citoyen avec Leadership Québec. Je vous fais écouter, c'est un extrait que Mathias, comme vous avez vanté au début, qui est très bon, est allé nous chercher sur le terrain aujourd'hui de Stéphane Lachance. Ouais, peut-être juste mettre les écouteurs, c'est une bonne idée, ça va aller mieux comme ça. Donc, je vous fais écouter, c'est un petit 20 secondes de Stéphane Lachance, puis on en discute par la suite.
La proposition qu'on a faite ne concernait en rien les candidats. Ça concernait uniquement les gens qui se proposent sur le ticket du maire. Donc, ça concernait M. Hamad et moi-même, mais la proposition qu'on a faite à M. Hamad était une proposition qui était très respectueuse, qui tenait compte de ses années d'expérience, puis de mettre à contribution ses années d'expérience au profit des gens de la Ville de Québec.
Stéphane Lachance, penses-tu que vous avez une meilleure équipe que lui puis vous voulez prendre votre place? Qu'est-ce qui se passe là?
Sa proposition est inacceptable et pas... Alors, ça termine là, c'est tout. Mm-hmm. Si quelqu'un y arrive, fait une proposition inacceptable, dites non, bonsoir, on passe à d'autres appels. Mais je reviens à une chose, par contre.
Ouais.
C'est que j'aimerais que M. Lachance comprenne aussi et les citoyens qui regardent Respect citoyen, l'équipe Respect citoyen, en fait, un vote maintenant, aujourd'hui, pour Stéphane Lachance, ça va être un vote pour Marchand, carrément. Mm-hmm. Si les gens veulent arrêter le tramway là, demain matin, là, c'est pas en votant pour Stéphane Lachance, parce qu'ils vont diluer le vote, puis on n'y aura pas... Puis la différence entre nous deux est claire. C'est que nous, moi, j'ai l'expérience, je suis capable de gérer des projets, j'ai une équipe formidable, 4 anciens conseillers municipaux, plus un ancien président de syndicat les employés de la Ville de Québec, plus un expert en mobilité. Je pense qu'on est capable de faire ça. Troisièmement, nous, on a une proposition. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut attaquer la mobilité, puis il faut régler la mobilité. Et ça va être votre prochain sujet, là, mm-hmm. SRB+.
Oui, d'ailleurs, William Trudel n'en parlait sur nos ondes ce matin, puis je vais faire jouer l'extrait tout à l'heure dans les nouvelles, qu'on n'a pas le choix, on a besoin d'un transport structurant. C'est faux de penser que c'est seulement avec des autobus du RTC qu'on va pouvoir s'en sortir.
Juste revenir rapidement pour pouvoir clore ça officiellement. Est-ce que M. Lachance dit que la proposition ne touchait pas aux candidats, que c'était vraiment juste les personnes qui se présentaient à la mairie, soit vous et M. Lachance? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que cette partie-là est véridique?
C'est vrai.
C'est véridique. Mais là, vous, par respect de votre équipe, vous avez dit « je reste » puis parce que vous avez le goût d'être maire de Québec.
Mais pas juste ça. Ça marche pas, sa proposition. Ouais. Elle n'est pas correcte.
Non, c'est ça.
J'arrête là.
Parfait. Pas de problème. On n'ira pas plus loin. Il va dans le SRB, tiens. 95% de financement promis par le gouvernement du Québec. J'ai fait un calcul. Je me souviens d'une conférence de presse que j'ai assistée. 4,7 milliards le SRB. Donc, à 4,2, hey, fait que ça veut dire que ça va être encore moins cher parce que le calcul que j'avais fait, c'était 230 millions seulement que ça coûterait aux contribuables de la ville. Fait que là, à 4,2, on est peut-être à 220 millions. Méchante bonne nouvelle en pleine campagne électorale.
En fait, très bonne nouvelle. C'est que ce qui est surprenant, cette nouvelle-là est sortie par un journal Le Soleil.
Oui.
Et je me posais deux questions. Est-ce que M. Marchand savait que le gouvernement de Québec a fait cette proposition-là? Et s'il savait, donc il n'a pas parlé, ou il ne savait pas, mais aussi parce que ça veut dire qu'il n'est pas à la table de décision. Deuxième élément, cette annonce-là que le gouvernement... L'SRB, c'est Service Rapide par Bus.
Ouais.
Et le gouvernement, quand il l'annonce, qu'il va financer 95% des autobus, mm-hmm. les services rapides par bus, ça veut dire que le gouvernement reconnaît que l'SRB est une solution du futur. Ce n'est pas une solution du passé. Puisqu'ils veulent le financer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, évidemment, nous, ben ça va alléger la solution qu'on propose en termes financiers pour nos citoyens. Et c'est ça mon objectif, moi.
Oui, et là, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, nous, la différence avec Stéphane Lachance, c'est qu'on a une proposition pour la mobilité. Pourquoi c'est si important de faire autre chose que juste les autobus du RTC, à votre avis?
Bien, en fait, quand je regarde les citoyens actuellement, quand je rencontre les gens à Charlebourg, Le Bourgneuf, ici, Le Bourgneuf, là, Val-Balaire, Beauport, Charlebourg, le service, il est pas efficace. Donc, il faut qu'on améliore ce service-là. Donc, la proposition qu'on amène, ça va aider tout le monde, les banlieues, et le centre-ville. En fait, on ne veut pas négliger personne. Mm-hmm. Puis on ne va pas mettre les banlieues contre le centre-ville. Les gens de banlieue payent des taxes, puis ils vont avoir des services. L'autre élément, c'est que notre projet, il est rapide. On va faire ça rapidement. Et deuxième élément, on va servir les banlieues, comme je viens de dire. Troisièmement, il coûte la moitié moins cher. Et aussi, il n'est pas intrusif, là. On n'ira pas sur boulevard René-Lévesque pour enlever des arbres, empêcher les gens de tourner, puis faire un tunnel après, cerise sur le gâteau, là, le tunnel à côté, le Grand Théâtre, mm-hmm. pendant des années de construction et dérangement de tout le monde, et des milliers de voyages de terre aussi qui vont promener centre-ville.
Donc, vous ne ferez pas ça, vous donnerez pas cette jambette-là aux commerçants du centre-ville.
Bien, commerçants, citoyens, même le Grand Théâtre, là, les autres actuellement, ils posent des questions. L'orchestre symphonique, l'opéra, ils pratiquent mm-hmm. au Grand Théâtre. À côté, on va avoir un tunnel avec l'excavation, la vibration, le son. Je sais pas comment ça va se passer.
Oui, c'est vrai, c'est un excellent point. On se le cachera pas, malheureusement pour vous, et je le rappelle, on est en discussion avec Sam Hamad, chef de Leadership Québec et candidat à la mairie. Vous avez eu le vent dans le visage au début de la campagne. Comment qu'on fait pour leur virer ce fameux vent-là puis dire « Hey, je prends les devants sur la chance puis je m'en vais te dépasser, Marchand. »
Bien, en fait, tu sais, une game de hockey, les gens le savent, là, ça se gagne à la fin.
Ouais.
Un match, n'importe quel match de sport, ça se gagne à la fin. Je donnais l'exemple de Mboko, là. Madame Mboko mm-hmm. qui a gagné le championnat canadien de tennis, là. Et au début, son match, elle a fait deux mauvais services. Parce qu'au tennis, tu as le droit de deux services. Et elle faisait beaucoup des deux mauvais services. Autrement dit, elle est partie un petit peu le vent en face, puis elle a gagné le tournoi. Ce qui compte, c'est la fin de la campagne et pas le début.
Donc, c'est ce qui compte. On est rendu à quelle période? La deuxième?
On est deuxième. On s'en vient vers le troisième. Il reste trois semaines.
Fait qu'on est deuxième période. Puis là, on va faire la remontée
là,
pour aller chercher
on
ça.
On approche le troisième.
C'est bon. Les femmes en politique et surtout les femmes qui s'intéressent à la politique, Stéphane Lachance a tenu des propos qu'il a dû rectifier. Vous en pensez quoi, vous, de ce magnétisme-là de Bruno Marchand?
Ah, j'irai pas sur le plan personnel. Ça, c'est des niaiseries, là. Y a-t-il une magnétisme? Il n'y en a pas. C'est comme traiter les gens ou les femmes d'une autre façon. En fait, là, il faut fier à l'intelligence des gens. Puis en partant, il faut dire des bonnes choses. Il faut dire des choses solides. Puis après ça, on fie au jugement des gens. C'est comme ça qu'on fait mm-hmm. partout, hommes ou femmes. Je trouve que c'est un peu malhabile. Là.
Ouais.
T'sais, dire l'autre, il y a un charisme, je sais pas, un charisme dépend qui, avec qui. Pas comme ça. Là. Ce qui est important, c'est amener des choses intelligentes, faisables, surtout réalisables, avec crédibilité. Puis après ça, ben, les gens jugeront.
Mm-hmm. Maggie Gagné s'est fait écorcher dans un article de Radio-Canada. Vous en avez pensé quoi? Moi, je vous donne mon avis. Là. J'ai trouvé ça dur pour une jeune femme qui se lance en politique.
Oui, j'ai en fait, surtout, elle n'est pas coupable de rien.
C'est ça.
Et tu sais, c'était pas... moi, je pense elle est forte. Elle tient solide. C'est une fille, elle est venue chez vous d'ailleurs.
Ben oui, super belle entrevue.
Très bonne entrevue et moi je l'aime beaucoup. Elle est brillante, c'est une femme, jeune femme, qui a une belle carrière je pense qu'elle passe à travers, là, c'est fini, là, on pense à d'autres choses.
Mm-hmm. Encore plus de 20% de la population indécis. Pourquoi on vote pour Sam Hamad et Leadership Québec?
C'est parce qu'il va travailler pour vous, les citoyens. Pas de nouvelles taxes. On va enlever la taxe sur l'immatriculation. On va enlever les frais intérêts pour le paiement de 12 mois qui correspond à 80 $ Alors, si on prend deux voitures plus 80 $ on est plus que 200 $ de moins. On va revenir à la base pour les services pour les citoyens. On va développer l'économie et c'est moi qui va prendre en charge l'économie. Et aussi, ben, on va avoir un projet de mobilité rapide, efficace, qui sert les banlieues avec toutes le centre-ville. Et on va gérer comme il faut. On va ramener l'RTC. On va travailler la gouvernance de l'RTC. On va la ramener parmi les sociétés le mieux gérées dans le transport au Québec. Et on va gérer la ville comme il faut. On va développer aussi, évidemment. On va permettre aux gens d'avoir moins de tracas de bureaucratie, mais plutôt de développement puis avancer. Et aussi, ben, on va surtout s'occuper des citoyens, puis les loisirs, les familles, puis l'accès à la propriété.
Avez-vous un plan plus réaliste que respect citoyen au niveau financier?
Ben, c'est clair. C'est parce qu'on dit qu'on n'augmente pas les taxes, puis on va baisser 500 millions. Tu sais, c'est bien dit, là. J'arrête d'augmenter les taxes, mais baisser les taxes, c'est facile à dire. Très facile. Mais la réalité, c'est que vous avez 5700 employés qui étaient... leur convention collective était négociée à 4% là. Et donc, faut payer. Puis, tu sais, demain matin, tu n'arrêteras pas de payer les gens, puis ça. Même dans la gestion, tu peux faire des économies. Moi, l'économie que je vais faire dans la ville, on va le donner en service, parce qu'actuellement, les services peuvent être améliorés, comme le déneigement.
Clairement.
On va arrêter le déneigement des pistes cyclables l'hiver. Ça va être terminé. Le tramway, ça va être terminé pour nous. Puis, on va focusser sur les services.
Good. Vous avez parlé tout à l'heure de revoir la structure au RTC, justement, pour la faire redevenir une organisation performante. Moi, j'ai travaillé là pendant 10 ans. J'ai adoré mon passage. On était vraiment axé sur la performance avec Alain Mercier. Comment vous allez vous y prendre?
Bien, en fait, on va axer sur la performance. On va surtout se baser sur les meilleurs services, améliorer les services, améliorer l'efficacité. L'efficacité, là, l'exemple meilleur, là, c'est qu'il y a eu une grève. Puis les gens qui ont acheté un abonnement, 45 $, ça va prendre des semaines et des semaines pour récupérer le 45 $. Ça, c'est l'exemple d'inefficacité d'une organisation. Et il y a eu une augmentation de personnel administratif par rapport au nombre de chauffeurs d'autobus. Ça, c'est la démonstration que la boîte augmente, s'alourdit, apprend du poids.
Comme le gouvernement du Québec, ça.
Bien, c'est ça. Alors, donc, il faut vraiment revenir à la base, arrêter l'embauche, concentrer sur les services, puis faire une meilleure gestion.
Ouais. Avec le recul, auriez-vous annoncé votre candidature plus tard qu'en avril, compte tenu que ça a comme laissé un flottement où tout le monde se disait « Ça m'amade, qu'est-ce qu'il va proposer? »
Ouais. Bien, on n'avait pas le choix de l'annoncer. Et d'ailleurs, vous et tous les médias voulaient avoir l'annonce.
On était impatients. Hey, je me souviens de nous avoir rencontrés au lancement du livre de Régis Labombe. Puis j'ai posé la question, quand est-ce que vous annoncez ça, monsieur Hamad? Puis là, c'est là que vous m'avez dit, soyez attentif en fin de semaine.
Oui, c'est ça. Et tu sais, ça faisait depuis le mois de février que tout le monde en parle. Oh, parce que vous avez besoin des nouvelles, je vous comprends.
Ben, tout le temps, on a toujours besoin de jaser avec les politiciens. Nous autres, on
aime
ça.
C'est ça.
Sinon, alors, je vous cours après sur le terrain.
Ben oui, exactement. Et c'est correct aussi. Vous faites votre job, vous faites bien.
Oui. Ah, merci, c'est gentil.
Là, tu sais, on a annoncé, puis on est là, on est rendu aujourd'hui. Là.
Parfait. Monsieur Hamad, toujours un plaisir de vous recevoir dans nos studios. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de campagne électorale, puis vraiment, je trouve que la démocratie à Québec est à son maximum à l'heure actuelle. Puis ça me fait vraiment plaisir.
Oui, t'as raison, puis merci de m'avoir accueilli.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur
Hamad. Bonne chance, Mathias. Là.
Merci.
Salut.
Mathias, c'est un excellent gars. Il a reçu des très bons commentaires, d'ailleurs, de nos auditeurs. 418-971-1021 pour réagir à cette entrevue avec Sam Hamad. On prend vos textos au retour de cette courte pause. Et par la suite, on va faire également un bloc news, puis on va parler de plein de bonnes entrevues qu'on a eues ce matin, dont une avec William Trudel qui mâche pas ses mots pour les candidats à la mairie. On veut une ville unie. C'est le message justement que William Trudel nous a envoyé. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase.
Oui, juste vous dire, avant de passer à la pause dans le monde du sport, ça vient de sortir. Canadien de Montréal qui donne des prolongations de contrat cette fois-ci, pas à des joueurs, mais à Jeff Gorton et Kent Hughes de plusieurs saisons. J'ai pas de nombre de saisons encore, mais on dit que directeur général du Canadien, Kent Hughes, est le vice-président des opérations hockey, qui sera maintenant le président des opérations hockey de l'équipe. Jeff Gorton resteront avec l'équipe pour plusieurs saisons encore.
Fred Munger, un ancien journaliste sportif émérite qui est maintenant le directeur des coms de Sam Hamad, il me dit « C'est 5 ans, Jeff, c'est 5 ans! » Moi, Fred, je te crois, t'as l'expérience pour ça. Hey, continuez votre bon travail, Leadership Québec, et continuez de vous amuser dans cette campagne électorale-là qui n'est pas nécessairement évidente. Donc, c'est l'heure de la pause, courte pause. À Boulevard Sonneur, on revient avec l'émission On en jase avec un bloc news et plein d'informations pertinentes.
On jase jusqu'à... Tiens, on jase!
On en jase sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte. Demain, ça sera avec Jeff Fortin et Antonine Iaccarini. Et jeudi, c'est le retour de Pascal CV. Manquez pas dans le segment Open Mic, dans le Point de Max. Jeudi, 11h, Pascal CV vient raconter son expérience. Kilimanjaro, soyez à l'écoute. Ça va être exceptionnel. Puis évidemment, on va en reparler dans l'heure de midi aussi, entre midi et 2h. J'ai à peu près une dizaine de questions pour Spice CP là-dessus. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Réagissez 418-971-1021. Ceux qui votaient sa maman, avez-vous encore confiance? Ceux qui votaient Stéphane Lachance, allez-vous continuer à voter Stéphane Lachance, même si ça divise le vote, ça va faire passer Bruno Marchand? Dites-moi là au 418-971-1021. Où êtes-vous devenu dans le camp des indécis? Si vous votiez Hamad ou Lachance, puis là, vous dites, je vais laisser aller à la campagne, puis je vais regarder pour qui je vote après. Dites-nous-le, s'il vous plaît, les gens là, jusqu'à présent là, qui marquent « Ouais, il aurait fallu concentrer le vote en fusionnant les deux partis. » Mais fusionner les deux partis, Mathias, aurait fallu que ça se passe avant la campagne électorale parce que là, tu as promis à 21 candidats, tu as fait leur pancarte, tes amis, c'est pas tôt, là, tu peux pas changer ça. Là.
Oui, mais quand on entend les deux candidats présentement, j'ai comme ma théorie, là, on spécule, je tiens à le préciser, mais... De ce que je comprends, c'était Stéphane Lachance qui disait « Je prends ton parti, mais je représente tes candidats.
Ben, »
C'est cette partie-là que je comprends pas. Mais de ce qu'on comprend, les candidats des deux équipes n'étaient pas touchés et continuaient leur campagne dans leur district, dans leurs différents districts. C'était vraiment juste les candidats à la mairie, puis avoir la réaction de Sam Hamad puis de Stéphane Lachance. C'était probablement Stéphane Lachance qui reprenait le flambeau entre les deux candidats.
Convaincu de la façon que Sam Hamad a parlé, l'extrait que tu nous as sorti, un extrait exclusif à Boulevard en passant, de Stéphane Lachance qui parle de sortie honorable pour Sam Hamad avec ses années d'expérience. Stéphane Lachance voulait clairement être le seul candidat à la mairie. Puis là, je spécule et Stéphane Lachance pourra venir nous le dire en ondes s'il veut, mais ce que je pense qu'il y avait dans la proposition, c'était que tous les candidats allaient rester. Puis selon qui allait être élu, une fois l'élection passée, on allait faire une fusion.
Oui.
Donc, exemple, je vais d'un exemple classique. Steven Melançon est élu dans Beauport, puis un candidat X de Respect citoyen est élu dans Val-Bélair. Bien là, ils vont devenir sous la bannière, puis là, comme on s'amusait à faire vendredi, de leadership citoyen.
Oui, non, mais ça aurait ressemblé... Ben, c'est quand même logique. Le problème, c'est que les différents candidats présentement, que ce soit pour... surtout du côté de Sam Hamad, là, ils se sont présentés pour Sam Hamad, pour être le candidat ou la candidate de Sam Hamad, pas pour être le candidat ou la candidate de Stéphane Lachance.
Exactement.
Fait qu'effectivement, du côté de Sam Hamad, même si ces candidats auraient pu continuer leur campagne respective, c'était quand même un manque d'irrespect envers ces candidats s'ils avaient accepté cette offre-là.
Vraiment, il y en a, puis je le cacherai pas, il y en a dans des candidats de Sam Hamad qui n'aiment pas la façon de faire de Stéphane Lachance et vice-versa. Il y en a dans Respect citoyen qui n'aiment pas la façon de faire de Sam Hamad. Donc, de s'imposer de cette façon-là aura amené nécessairement de la grogne. Puis Sam Hamad, en homme fier qu'il est, en homme qui pense pouvoir avoir accès à la mairie, t'es allé convaincre 21 personnes de te mettre derrière toi, puis let's go, on s'en va changer la ville. Peut pas y laisser tomber à 3 semaines du vote. Là.
Ben non, puis il faut continuer à le rappeler, même si les deux personnes, Sam Hamad et Stéphane Lachance, ont 31% dans les sondages présentement, soit au-dessus de Bruno Marchand. Ça marche pas comme ça. C'est pas tout le monde qui aurait voté Sam Hamad qui voterait Lachance, puis c'est pas tout le monde qui voterait Lachance, qui voterait Sam Hamad. C'est pas juste du monde qui veut absolument sortir Bruno Marchand coûte que coûte qui vote pour les deux candidats. Il y en a certains qui votent pour le candidat parce que le candidat lui plaît.
Mm-hmm. Et tu vois justement Isabelle qui nous écrit « Je suis rendu dans le camp des indécis. » Continue de nous écrire au 418-971-1021. Puis moi, j'ai pas mon dire. Sam Hamad et Stéphane Lachance ont juste à être meilleurs. Puis à venir remporter la guerre qui se livre pour dépasser Bruno Marchand.
Ben,
quand il a cherché, 28, 29, 30 %, Si Bruno Marchand est capable de le faire contre des adversaires comme Claude Villeneuve et Jack Smith, qui sont plus à gauche de l'échiquier politique, donc plus dans les talles de Bruno Marchand, bien que Lachance ou Hamad réussissent à faire le même tour de force.
Puis Bruno Marchand, présentement, est d'avance dans les sondages quand même assez confortablement,
oui.
Malgré le fait que 51% de la ville de Québec veut le voir partir. C'est tout à son... C'est tout le mérite lui revient, là,
tout honnêtement. Tout à son honneur, ça veut dire qu'il va piger la très, très grande majorité du 39% restant. Puis c'est là qu'il fait ses gains significatifs qui lui permettent à présent d'espérer un deuxième règne là, à la mairie de Québec, là, sans l'ombre d'un doute. Parlant de Bruno Marchand, justement, il est en feu, Bruno, après l'enregistrement du débat nouveau.
Oui, oui, oui. Il était tout feu, tout flamme. Il avait l'air... Je sais pas s'il était de bonne humeur ou fâché. Là, Bruno Marchand, tu le sais pas. Des fois, quand il mord fort, ça veut dire que ça veut dire qu'il est de bonne humeur. Puis je pense qu'il était aujourd'hui parce que, Seigneur, en dedans de 2 minutes, il a planté tout le monde que tu pouvais planter.
Il vous a donné un bon 2 minutes radio, c'est ce que je comprends.
Ouais, c'est ça. Mais surtout Stéphane Lachance qui en a mangé une bonne. Encore une fois, on voit que c'est rendu l'ennemi numéro un de Bruno Marchand. J'aimerais commencer toutefois. On a entendu sa maman dans l'entrevue qui critiquait les infrastructures sportives, oui. Les infrastructures d'eau de Bruno Marchand. Bruno Marchand a eu l'occasion de répondre à ça en scrum en disant que sa maman... S'il veut, on peut en parler de son bilan en infrastructure sportive. Il n'y a aucun problème avec ça.
On mettait 35 millions d'infrastructures sportives avant que j'arrive dans les quartiers. On a mis 78 millions dans la dernière année. Voulez-vous qu'on parle de jeux d'eau? Je pense que M. Hamad sait très bien qu'il marche très bien aux jeux d'eau. Okay? Voulez-vous qu'on parle de tous les jeux d'eau qu'on a fait? Voulez-vous qu'on parle de toutes les piscines qu'on a fait? Et non, on ne peut pas tous les faire en même temps, mais on a un plan aquatique. Contrairement à ce que dit M. Hamad, qui n'a pas été adopté en 21, qui est adopté en 23, je suis capable de le défendre, mon bilan. J'en suis très fier. On a fait beaucoup en...
Ouais, une petite flèche à sa maman là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais ça, oui, c'est vrai, les chiffres le prouvent qu'il y a eu plus d'investissements faits justement dans les parcs puis dans le loisir que je vais appeler libre là, oui. Du côté de Bruno Marchand dans les 2 dernières années. Bruno Marchand, c'est toujours la même critique qu'on va faire de lui, puis je pense avec raison. Puis aussi, je crois que c'était beaucoup dû à son inexpérience. Il est quand même arrivé de nulle part comme maire de Québec. Les 2 premières années étaient tellement difficiles en création de logement, tellement difficiles en infrastructure. Tellement difficile en gestion de la ville qu'on en a perdu la gestion du tramway. Depuis ce temps, il s'est raplombé. Est-ce suffisant aux yeux des électeurs? Ça reste à voir. Il y a Stéphane qui nous pose une excellente question. Qu'est-ce qui empêcherait une fusion suite aux élections, même si les 2 candidats continuent à se présenter? Absolument rien, Stéphane. Puis je pense que ça va être une stratégie peut-être qui va être évaluée si jamais Bruno Marchand entre minoritaire. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, dans les sondages, Québec d'abord et Transition Québec vont placer beaucoup de gens au conseil de ville. Peut-être Jackie Smith, peut-être Véronique Dallaire, le chef Claude Villeneuve. Fait que si on a une majorité avec leadership Québec et respect citoyen, il n'y a pas de doute qu'il pourrait avoir une fusion là pour tenter de bloquer ultimement le projet de tramway.
Ah oui, c'est quand même une option très envisageable. Puis même si on n'a pas de majorité, advenant un cas où le leadership Québec perd puis place certains de ses candidats, ben ça m'étonnerait pas qu'on... Parce que sa maman se retire après. Là,
oui, sa maman
n'a
pas de colistier. Donc s'il n'emporte pas la mairie, il se retire. Stéphane Lachance a un colistier, oui. Donc à ce moment-là, pourrait venir le leader de l'opposition officielle. Et là, ça va être de voir s'il va être capable de convaincre les gens de Leadership Québec d'aller sous sa gouverne, là, parce que c'est pas toujours évident de le faire. On n'a qu'à penser à la défusion, là, je m'exprime mal, là, mais lorsque Québec 21 oui. est tombé, le Parti Québec 21, bien Bianca Dussault, ultimement, est allé rejoindre Bruno Marchand. Il n'a pas suivi les traces de ses anciens collègues, dont Steven Smelançon.
Oui, puis même du côté de Leadership Québec, ça va vouloir se replacer, ça, à moins que quelqu'un dise « Hey, on reprend le parti puis on reste un parti indépendant. » Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelques conseillers, oui. peu importe, qui va décider d'aller pour respect citoyen, peut-être même certains candidats qui vont dire « Ah, finalement, Québec fort et fier, on va aller les rejoindre. » C'est normal. S'ils n'ont plus de chef, ouais. s'ils n'ont plus de personne à suivre, ben eux autres, ça se peut qu'ils se raccrochent à un autre parti.
Exactement. Donc, ça se pourrait fort bien, exemple, qu'une Jackie Smith devienne un Québec fort et fier, sait-on jamais. Pascal qui nous écrit « Autant je savais quoi faire maintenant, j'attends la dernière minute. » En effet, moi, je suis convaincu que le dernier sondage avant l'élection va amener les gens à voter soit pour Hamad ou Lachance.
Ah, ça, c'est sûr.
Pis, dépendamment qui est en avance.
Puis présentement, si on suit la tendance, selon moi, je pense qu'on peut dire ça va probablement être Stéphane Lachance,
oui,
honnêtement.
Oui, ça risque d'être serré.
Mais
5,
c'est
5%, c'est dur à rattraper au municipal.
Ça pourrait être étonnant parce que sa Mamad reste avec une certaine réputation, oui. Reste avec un nom. Puis, je veux dire, je pense que les auditeurs qui nous écoutent sont de fervents adeptes mm-hmm. de la politique municipale, s'informent énormément, nous écoutent régulièrement, on en ouais. parle beaucoup. Moi, puis toi, Jeff, on est des passionnés de politique mais municipale. Hein? Mais... un habitant moyen de la ville de Québec, mm-hmm. quelqu'un comme un autre, s'intéresse pas nécessairement de la politique municipale.
Sa Mamad est un nom qui parle plus exactement. Que Stéphane Lachance, t'as entièrement raison. Bruno Marchand, justement, parlait de sa Mamad et Stéphane Lachance. Il a trouvé ça comment, ce projet de fusion-là?
Un mot, désespération.
Ouais. Ben, ils sont désespérés, je vous l'ai dit la semaine passée. Ils sont désespérés. Le sondage les a mis dans un état de désespoir et M. Lachance a fait une fausse tentative de rapprochement. J'ai jamais vu quelqu'un essayer de se rapprocher de quelqu'un en plantant autant de couteaux dans le dos. Là. Fait que c'était juste la stratégie pour faire bien paraître. Il n'y avait pas de temps d'enjeu du tout.
Là. Que ça ait
achoppé. Non, je vous l'ai dit, j'avais pas peur. Nous, là, présentement, notre campagne, on présente des idées. Puis je félicite M. Villeneuve, Mme Smith, là, parce que les autres font des conférences de presse et ils amènent des idées. On n'est pas toujours d'accord, là, mais ils amènent des idées. Ils présentent. Ce que M. Lachance et M. Hamad font pas, là. Ils font des points de presse, mais ils n'amènent pas d'idées, ou très peu.
418-971-1021 pour réagir à ceci. Vous êtes plusieurs à le faire depuis le début du show, mais j'ai envie de vous poser la même question que Bruno Marchand a répondu. Est-ce que vous voyez ça comme du désespoir, la tentative de Stéphane Lachance de s'associer à Sam Hamad? Moi, s'il y a un reproche que je peux faire à Stéphane Lachance, c'est de l'avoir rendu public. Aurait pas fallu qu'elle rende publique. Parce que ça, c'est vrai que c'est un couteau planté dans le dos de Sam Hamad. Puis ça vient faire quand même démontrer une certaine faiblesse de dire « Ouais, tout seul, je serais pas capable. » Puis les gens, ils veulent avoir un leader. Ils veulent avoir quelqu'un en qui ils ont confiance. Puis là, quand tu dis « Ouais, tout seul, je serais pas capable. » Me semble que ça inspire moins. Je suis-tu dans le champ?
Mais peut-être que c'est justement ça la stratégie politique de Stéphane Lachance de le rendre public. J'y ai pensé à ça. Peut-être que depuis le début de la campagne, beaucoup de personnes reprochent à M. Lachance en disant « M. Lachance, vous divisez le vote. Vous divisez le vote. Vous êtes celui qui
ouais,
allait faire en
j'aime
sorte... »
J'aime ton idée. Puis là, c'est de renverser ça sur sa Mamad que
exact,
c'est lui qui divise
exact.
Le vote.
Vous êtes celui qui allait faire en sorte que Bruno Marchand rentre à nouveau. Puis là, Stéphane Lachance, en rendant ça public, il dit « Garde, moi, je veux pas diviser le vote. Moi, j'ai le momentum. Moi, j'ai le vent dans les voiles. J'ai proposé une alliance. C'est la troisième fois que je le fais parce que je veux pas diviser le vote, parce que je veux sortir ouais. Bruno Marchand. » Fait que lui, une fois que la proposition mm-hmm. est refusée par Hamad, ben lui, il sort et il dit « Garde, j'ai tout essayé, mais maintenant, il y a une chose que vous devez retenir. Votre option pour sortir Bruno Marchand, c'est moi. J'ai ouais. essayé d'aller chercher l'autre. C'est lui qui veut pas. C'est lui qui divise le vote. Maintenant, ralliez-vous à moi. On sort Bruno Marchand. »
Ah, j'aime ton idée. J'aime ton idée de prendre le momentum des gens. Puis là, je vais parler sur l'échiquier politique qui va de plus à droite là, de l'échiquier politique. C'est vraiment bon ton analyse, Mathias. En passant, Christian nous écrit « Ouais, Bruno Marchand pour présenter beaucoup d'idées. » Il fait quand même des annonces à chaque jour qui oui. sont intéressantes. Il y en a une que fait samedi qui est super intéressante. C'est la revitalisation de la place Diouville et Mélissa Coulombe-Leduc, qui est justement candidate pour Bruno Marchand dans ce secteur-là et qui était la conseillère municipale également du secteur. Elle va venir nous en parler autour de 13h. J'aime saluer les bonnes idées, peu importe le parti politique. Tu vois, on a salué le SRB de M. Hamad, mais là, on va saluer Place Diouville de M. Marchand.
Puis je tiens à dire, même si que vous soyez en accord ou pas avec les idées de Bruno Marchand, pour moi, présentement, c'est lui qui a la meilleure stratégie de communication
oui,
politique.
Clairement.
Il sort toute la semaine pour faire des annonces.
À 10h, c'est précis.
Exactement.
Les médias peuvent reprendre ça sur l'heure du midi en soirée, donc c'est très visible.
Sa Mamad est sortie 3-4 fois mm-hmm. depuis le début de la campagne. Pas très, très actif, tandis ouais. que Bruno Marchand l'est énormément. Fait que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il annonce, ben ouais. il annonce beaucoup de choses.
Stéphane Lachance s'est fait beaucoup critiquer son programme électoral depuis une semaine. On n'a qu'à penser à son cadre financier, on n'a qu'à penser à l'étalement du périmètre urbain. Est-ce que c'est revenu dans les discussions avec Bruno Marchand?
Oui, ben Bruno Marchand, justement, il y a de plus en plus d'attention médiatique là, sur Stéphane Lachance. Puis Bruno Marchand, c'est ça qu'il a commenté. Là. Il a commenté puis il a dit que pour lui, il était content que Stéphane Lachance ait de l'attention médiatique. Je vous laisse écouter.
Mais c'était juste de la poudre aux yeux, là. Monsieur Lachance était mal pris avec ses déclarations sur les femmes. Fait qu'il a décidé de créer du bruit pour faire semblant qu'on n'en reparlerait plus, là.
Et on y va avec l'autre également.
On est content que M. Lachance ait de l'espace, parce qu'à l'écouter parler, on voit bien que ça ne tient pas à route, là. On est content que M. Lachance présente ses idées, même s'il ne présente pas tant que ça. On est content de sortir les idées de sa plateforme. Parce que présentement, ça, la mathématique ne marche pas. Là. Je vais dépenser, mais je vais couper. N'importe qui, là, pas besoin d'être content pour savoir que ça ne marche pas. On est content qu'il y ait de la mise en lumière qui soit faite là-dessus, pour pas qu'il y ait une free ride, justement, qu'on voit que son plan n'est pas du tout réaliste.
Donc, deux extraits qui parlaient de distraction par rapport aux commentaires chez les femmes. On en a parlé tout à l'heure avec Sam Hamad. On a quelques auditrices qui ont réagi également. Ça continue à faire parler, malheureusement, pour Stéphane Lachance. Quand Bruno Marchand dit « Je suis content qu'on parle du programme de Stéphane Lachance », ben oui, en effet. Le fait que Stéphane Lachance devienne plus populaire, ça fait qu'on s'est attardé un petit peu plus à son programme électoral. Puis oui, tu sais, Stéphane Lachance fait une superbe campagne terrain. C'est un gars qui communique bien. C'est un gars qui a des très bonnes idées pour Québec, soit dit en passant. Mais c'est vrai, et ça, c'est pour toutes les plateformes électorales de tous candidats confondus, il y a des lacunes. Et les deux lacunes, dans le cas de Stéphane Lachance, pour moi, ça ne fait pas de doute. Le cadre financier, j'ai demandé à Stéphane Lachance vendredi de nous expliquer, je comprends pas plus où il va aller chercher ces 500 millions-là. Et l'étalement du périmètre urbain, qui pour moi est une idée qui ne fait pas de sens. Tous les gens s'accordent pour dire que ça prend une densification à Québec. William Trudel nous en parlait ce matin. On est rendu 800 000 dans la région. On va tomber 1,5 million en une génération. Il faut densifier, il faut construire en hauteur parce que c'est justement de cette façon-là qu'on va faire des économies d'échelle par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre compte de taxes. Donc ça, malheureusement, pour Stéphane Lachance, c'est une mauvaise idée.
Oui, puis Bruno Marchand manque pas de pointer du doigt, manque pas de mettre de l'avant. J'amène quand même un certain questionnement sur le ton qu'a employé M. Marchand aujourd'hui. On en a parlé avec Antonine la semaine dernière. Bruno Marchand est d'avance dans les sondages. Est-ce qu'il gagne vraiment à embarquer dans les critiques qu'on peut presque appeler de critiques personnelles? Par
en
moment,
là,
des fois, on peut presque qualifier ça d'insulte. Il va fort.
Oui.
Est-ce qu'il gagne vraiment à y aller fort comme ça? Je ne sais pas à quel point. Puis c'est pas nécessairement le type de politique que j'aime tant que ça non plus.
C'est un excellent point. Moi, si j'étais Bruno Marchand, je me serais plus concentré sur le fait d'aller chercher le fameux 8-10% qui traîne à Villeneuve, puis Jackie Smith, là, puis de proposer des choses pour ces électeurs-là. Pas essayer de décourager les électeurs de Lachance et Hamad comme ils tentent de le faire. Moi, je trouve que tu as un excellent point. C'est la stratégie que j'aurais utilisée parce que Bruno Marchand a besoin de quoi là, pour s'assurer à la mairie? Là? 3-4% de plus?
Pas grand-chose.
Il a besoin d'être, ça, il a besoin d'être à 32-33% puis il gagne, c'est sûr.
Puis, on en a parlé un peu de choses qui n'ont pas nécessairement de sens ou qu'on a du mal à comprendre dans les différentes plateformes. Puis une des choses qui avait fait énormément de bruit dernièrement, c'est la fameuse montée Mendel qu'on prendra le tramway. Initialement, on était censé avoir des voies pour les automobilistes. Le maire Marchand a décidé de les retirer. Ça a amené beaucoup d'incompréhension en disant pourquoi. Ben, du côté du maire Marchand, on s'est défendu en disant que les habitants de Pointe-Sainte-Foy seront très heureux par cette décision.
Pointe-Sainte-Foy, ils sont très contents de cette décision-là. Ils sont très, très contents de cette décision-là. Et les gens de Cap-Rouge, ce qu'ils me disent, c'est qu'on n'est pas sûr que ça va en
À part Jean-Luc Lavoie, là, y a-tu d'autres mondes qui sont contents à Pointe-Sainte-Foy? Il n'y a pas juste M. Lavoie?
Ben, j'ai fait campagne en 2021. C'était une des questions qu'on m'abordait, notamment sur tout ce qui est autour de Versant-Nord, tout ce qui est autour de Pidou, tout ce qui est autour du secteur Saint-Benoît. Il y a beaucoup de monde qui était très inquiet d'amener beaucoup de trafic dans leur quartier. Et les gens de Cap-Rouge ne sont pas sûrs d'y voir des gains non plus. Là. Alors, tant qu'on ne verra pas de gains, les gens de Cap-Rouge, qu'on verra. Oui, mais présentement, ce qu'on dit, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a identifié. Puis s'il faut l'ouvrir après, il y a des possibilités, mais on part pas avec ça.
Je suis plus ou moins d'accord avec cette affirmation-là. Je pense qu'il faut toujours penser à des moyens, à des constructions d'infrastructures qui vont être mixtes.
Oui, ben je suis d'accord, surtout pour ça. Là. Ça semblait très logique. Là. Il dit éventuellement, on verra, rendu là, fait le projet d'un coup. Là. C'est sûr, ça va coûter moins cher que de faire en deux parties
séparées.
Exactement. Mais plus loin que ça, lui, son argument, c'est que les gens de Pointe-Sainte-Foy sont très contents parce qu'ils veulent pas de trafic. Moi, je trouve que c'est pas dans ma cour, encore un peu.
C'est
lui,
un excellent
point. Lui qui défendait là, tous les habitants de l'Académie Saint-Louis qui disaient, ben, on n'en veut pas de partie chez nous, puis qui disaient que c'était inacceptable. Ben, tu disais des gens de Pointe-Sainte-Foy pour dire ils veulent pas plus de trafic. Que les gens de Pointe-Sainte-Foy, on va pas mettre ces infrastructures-là. Je trouve que c'est contradictoire.
Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire dans notre cour?
Mais non
on parle
ça.
De densifier la ville. Là, on la densifiera plus parce que c'est pas dans ma cour. On fera pas une nouvelle route parce que c'est pas dans ma cour. On construira pas une nouvelle école parce que, hey, mon Dieu, les terrains sportifs, ça crée du bruit, fait que pas dans ma cour. T'sais, je veux dire, si on embarque dans le pas
non,
dans ma cour, il y aura plus de limites là-dedans. Fait que je trouve que c'est un bon point que tu amènes. Puis moi, c'est juste que, vous le savez, je suis très pro-transport en commun. Je suis très pro-transport structurant. Je pense pense qu'il faut revoir notre ville dans notre façon de se déplacer, mais ça passe par la mixité des moyens et non pas juste par un moyen qui est le transport en commun avec le chemin Mendel. Ben, c'est ce qu'on fait. C'est pourquoi je me montre en désaccord. Il y a un auditeur qui nous mentionne « Hey, allez-vous couvrir les élections de Saint-Augustin puis Ancienne Lorette parce qu'on envoie pas mal de taxes à Québec. Excellente idée. On va se mettre là-dessus dans en jase. On aura là, des candidats autant à la mairie de Saint-Augustin qu'à la mairie d'Ancienne Lorette. En attendant, Mathias, on vient de faire un beau tour de l'actualité municipale avec les commentaires de Bruno Marchand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à surveiller dans l'actualité?
Oui, il y a quatre mineurs qui ont été arrêtés lundi soir à Saint-Michel-de-Bellechasse pour des incendies de matière louche, de matière criminelle. C'est vers 20h que des pompiers de la municipalité ont été appelés à se rendre sur le deuxième rang pour un incendie en cours. C'était une demeure inhabitée. Il y a eu un autre incendie un peu plus tard dans la journée. On trouvait ça louche. On a arrêté au total ces 4 ou 5 mineurs qui seraient reliés à cet incendie-là. Présentement, il y a une enquête qui a été ouverte en raison de ça, dans le secteur de Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur les droits de douane de 10% imposés à la fin de septembre par le président américain Donald Trump sur le bois d'œuvre et les meubles fabriqués en dehors des États-Unis. Donc, c'est un 10% qui vient s'ajouter à un 35% qui était déjà présent sur les différentes importations d'armoires de cuisine, de meubles de lavabo ou d'autres produits rembourrés en bois qui provenaient du Canada justement. Donc, c'est 45% de tarif total qui va être sur le bois canadien, ça risque de faire très mal à l'industrie canadienne de bois.
Oui, déjà qu'il y a plusieurs scieries qui ont fermé là, en région et on le sait, on tarde justement à lancer le projet de loi qui sur l'industrie forestière, projet de loi qui a été annulé par François Legault avec le départ fracassant de Maïté Blanchette-Vizina là, du caucus de la CAQ. Donc, rien de rassurant pour notre industrie du bois d'œuvre à l'heure actuelle.
J'ai vu un dossier qui m'a titillé un peu, qui a attiré mon attention ce matin dans le Journal de Québec, ce serait des membres d'une organisation religieuse controversée
qui
se présenterait, qui chercherait à se faire élire à Lac Etchemin, donc dans Chaudière-Appalaches, au poste de mairesse et de conseiller, là, vraiment. On parle de quatre candidats qui sont au sein du parti Le Renouveau, qui seraient membres également de l'Armée de Marie, donc un mouvement religieux qui a même été banni, excommunié par le Vatican en 2007. Donc, au total, c'est 4 des membres de ce parti-là, dont celle qui se présente à la mairie, Joanne Plourde-Têtu, qui ferait partie de ce mouvement religieux-là et qui tenterait de prendre des postes de conseiller et de mairesse. Du côté de l'Armée de Marie, on a insisté, on a dit on n'a pas de lien avec ces différentes candidatures-là, mais ça apporte quand même un fort questionnement à se dire « Crime, c'est un groupe religieux qui essaye de prendre contrôle de la ville? »
Contrôle de la ville, exactement. Faudrait pas, hein, dans un moment de laïcité, puis pas juste dans un moment, là, dans le fait que le Québec est passé laïque, faudrait pas que ça arrive, là.
Plus de 10 000 Québécois ont fait une plainte à l'Office québécoise de la langue française l'an dernier. Donc, on parle d'un sommet, on parle d'un nouveau record de plaintes en une année. Mm-hmm. On note une hausse notamment de 140% des plaintes en 5 ans. Donc, une force
hausse. On a-tu le pourcentage de cas qui sont réglés, par contre?
Non, ça, je l'ai pas avec moi. On dit que c'est 80... un peu plus que 90% des cas qui se règlent hors cours, donc qui se règlent avec des ententes à l'amiable avec l'Office québécois de la langue française. Donc habituellement, c'est pas des grosses problématiques là, on s'entend, là. Mais ce qui retient l'attention, c'est les plaintes pour la langue de service. Donc pour quand tu vas dans un commerce, tu es censé pouvoir te faire servir en français. Eh bien, 40% des plaintes reçues, donc 40% des 10 000 Québécois qui se sont plaints, c'est en lien avec la langue de service. Puis il y a de cela 5 ans, c'était seulement 25% des plaintes qui étaient reliées à ça. Donc, une forte augmentation dans ce secteur-là, en particulier qui se retrouve bien sûr à la première position. À la deuxième position, on a des plaintes reliées au site web et à la troisième position, des plaintes reliées à l'affichage.
Oui, l'affichage va sûrement prendre de plus en plus d'importance avec la nouvelle loi là, qui est entrée en vigueur à compter du mois de juin.
Le gouvernement Legault veut mettre plus d'argent dans l'adaptation des citoyens aux impacts des changements climatiques. Donc, c'est ce qu'on a été annoncé aujourd'hui. En gros, c'est que présentement, l'enveloppe budgétaire pour l'environnement, pour l'économie verte dans le plan d'action pour une économie verte 2030 mise en place par le gouvernement, il y a deux montants qui sont octroyés pour deux choses différentes. Donc, un, l'adaptation aux impacts climatiques. Donc, on parle d'inondations, etc. Puis l'autre, c'est pour réduire les émissions de GES à travers le Québec. Présentement, c'est 1,3 milliard sur le budget total de 10 milliards, soit 13 % du budget, qui est pour l'adaptation au changement climatique. Mm-hmm. Et le reste, ça va pour réduire les émissions de GES. Eh bien, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait restructurer ça, qu'il allait mettre plus d'argent dans l'adaptation pour justement accommoder les citoyens dans le besoin suite à inondations ou autres.
Pour moi, je trouve que c'est une très bonne option et je m'explique. Puis là, même si les gens vont dire qu'il faut que tout le monde fasse sa part, et vous avez raison en termes de changement climatique, mais pour moi, le Québec seul dans ses rangs, avec la façon que les États-Unis ont décidé de ne pas s'attaquer au changement climatique, continue à investir autant d'argent dans la réduction des GES, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Par contre, munir les municipalités, donner des munitions aux municipalités pour qu'ils s'adaptent, ça, pour qu'elles s'adaptent, ça, je trouve vraiment que c'est très logique. Et d'ailleurs, je te fais écouter Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, ce matin sur nos ondes. Écoute bien l'énumération juste pour l'eau, parce qu'il manque d'eau à l'heure actuelle. Tu nous as préparé un bon dossier qu'on va entendre dans l'heure de 13. Écoute bien tout ce qu'on a de besoin.
Bien, absolument. Puis d'être surélevé aussi, puis avec peu d'eau dans les lacs, on s'aperçoit que toutes les espèces envahissantes qui rentrent, qui causent des fois une moins bonne qualité de l'eau. Quand on est en profondeur, souvent l'eau est plus froide aussi, vous le savez, en faisant de la plongée, ou est-ce qu'il y a des choses qui... je pense à la mousse zébrée, je pense à différentes choses qui, présentement, deviennent des problématiques pour ces prises d'eau-là qu'on n'avait pas dans le passé. Il y a une vitesse plus grande. Ça fait que nos spécialistes ont à investir, mais la même chose pour les puits artésiens. Il y a des municipalités qui décident que des secteurs, qui décident qu'ils n'ont pas le choix, là. Il y a des secteurs qui doivent plus se bâtir de maisons parce que les nappes phréatiques sont tellement loin ou que inatteignable.
Donc, deux choses là-dedans. On comprend qu'il va falloir renouveler justement le système d'eau parce qu'avec le manque d'eau, il va falloir aller chercher de plus en plus en profondeur, mais ça amène certaines problématiques qui ont été nommées par M. Demers. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des municipalités en région qui ne peuvent plus développer. Fait que faut que j'offre plein de services. J'ai une population qui a grandi, mais je ne peux pas aller chercher une nouvelle taxe parce que je ne suis plus capable de développer en raison, justement, des problèmes d'infrastructure. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée de Bernard Drainville de dire, « Hey, regarde, on va plus s'occuper de nos affaires, puis on va gérer la problématique au lieu de tenter de la diminuer. » Je trouve que M. Drainville a bien de l'allure dans sa façon de penser.
Oui, puis de toute façon, quand tu as Donald Trump à côté qui ouvre les valves du charbon puis qui arrête pas puis qui est comme on laisse faire l'environnement, c'est important l'environnement, il faut faire nos efforts, mais je pense que dans une situation comme ça, c'est plus important de dire on sait que les changements climatiques vont avoir lieu de toute façon, on continue de faire nos efforts. Par contre, on va faire en sorte de vous rendre des plus de ressources disponibles pour gérer ces situations-là.
Exactement. Une petite dernière sur Gaza?
Ben oui, je termine avec... Gaza, bon, le cessez-le-feu qui est rentré en vigueur vendredi dernier. Une très, très bonne nouvelle
vraiment
de ce côté-là. Là, ça a causé des dizaines de milliers de morts, cette fameuse guerre-là, ou génocide, comme plusieurs organismes l'appelaient partout à travers le monde.
Oui, d'ailleurs, c'est en la une de tous les quotidiens, là, comme quoi il manque énormément d'aide humanitaire à l'heure actuelle. C'est l'ONU qui en parle. Donc, c'est pas demain matin que la population va se remettre à manger 3 repas par jour, malheureusement.
Ah non, ça, c'est sûr. Puis on déplore là, la situation. On demande justement davantage d'aide humanitaire, autant du côté de l'ONU que de la Croix-Rouge, que de tous les organismes qui sont présents sur place. Ce qui retient l'attention aussi présentement, c'est que Hamas commence à étendre sa présence dans les zones de la bande de Gaza. Donc, le Hamas, on rappelle, l'organisation terroriste qui reprend un peu le contrôle de la bande de Gaza maintenant que l'armée israélienne est partie. Ben, eux autres sont sortis de leur petite cachette puis ils se sont dit, ben, on va commencer à replacer nos différents piquets pour reprendre contrôle du territoire. Puis c'est un peu ça qui se voit présentement. D'ailleurs, il y a présentement sur place des combats entre des clans, des gangs armés qui seraient soutenus par Israël contre le Hamas, justement, pour un peu contrer cette organisation-là, mais ça va comment ce plan de paix-là va s'établir, comment tout ça va fonctionner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va être à suivre de très près.
Il faut saluer l'initiative de Donald Trump qui a pris les choses en main et qui tente l'impossible avec un plan de paix entre Gaza et Israël, mais ça ne sera pas de tout repos. Et en entrevue à l'émission de Mario Dumont ce matin, Ferry de Korchev, qui est un ancien ambassadeur canadien au Moyen-Orient, nous explique comment ça va être difficile, malgré ce plan de paix-là, de réussir justement à ce que cette paix dure à long terme.
Je commencerai par dire que le retour des 20 otages, ça, c'est remarquable. En ce qui concerne le plan de paix, je suis de plus en plus inquiet, dans la mesure où, quand je vois 7000 membres du Hamas qui circulent dans Gaza en assurant le service d'ordre et tout ça, je me dis, vous allez, comment va-t-on désarmer ces 7000 personnes, sans compter ceux qui sont encore dans les tunnels? J'ai l'impression que la grand-messe auquel on a assisté à Sharm el-Sheikh est une grand-messe et c'est fini. On a fait le signe de croix et puis on retourne à la maison. Je crois que c'est vrai. Ça qui m'inquiète beaucoup, beaucoup plus. C'est très beau d'avoir cette grande, grande cérémonie, mais elle ne donne absolument rien sur le terrain. Est-ce que la force de stabilisation dont on parle va-t-elle véritablement entrer dans Gaza pour désarmer le Hamas? Pour l'instant, le Hamas semble en pleine possession de ses moyens. Alors c'est vraiment très inquiétant parce que, vous savez, il ne faut jamais penser que Netanyahou renonce à la guerre. Il n'y renonce jamais.
C'est tellement triste de savoir qu'on fait tout ça pour que finalement, il reste 7000 combattants du Hamas encore armés là-bas.
Ben, je veux dire, tu peux pas... Même si tu rétablis la paix sur ce territoire-là, on le savait tous que ce territoire-là était contrôlé par une organisation terroriste. Je pense que ça surprend personne. Malheureusement, une fois que cette guerre-là est terminée puis que le territoire y est relaissé vacant, ben c'est sûr que cette organisation terroriste-là qui tirait les ficelles par derrière, ben ils reprennent le contrôle.
Exactement. Donc, on souhaite que, justement, ce gouvernement de transition à Gaza réussisse à faire en sorte que la Hamas ne crée pas d'autres atrocités. On souhaite la paix là-bas parce qu'on le rappelle, Israël n'a pas été plus intelligent en tuant 30 000 personnes là-bas dans la bande de Gaza, 30 000 civils. Alors, évidemment, là, on souhaite que la population là-bas à Gaza recommence à manger à sa faim rapidement et qu'on ait vraiment une trêve de longue durée là-bas. Mais selon Ferry de Korchev, qui est ancien ambassadeur canadien au Moyen-Orient, il y a lieu d'en douter. Avant la pause, je vous parle de la fondation du club Richelieu Ancienne Lorette qui vous invite à leur soirée annuelle sous la formule d'un vin fromage le 18 octobre prochain. La soirée aura lieu au Patro Laval et j'y serai, tiens, je vais être le représentant boulevard à cette soirée-là. Les profits de cette soirée seront distribués à des organismes venant en aide aux jeunes dans le besoin tels que la Maison Jean Lafrance, le Patro Rocamadour, la Maison des jeunes de l'Ancienne Lorette, les Cadets et plusieurs autres. Puis là, vous avez bien compris, c'est au Patro Laval parce que le Patro Rocamadour, malheureusement, était victime d'un incendie. Alors, félicitations au Patro Laval de prendre en charge cet événement-là pour les organismes que je viens de mentionner. Les billets sont en vente au coût de 125 $, ce qui inclut cocktail de bienvenue, trois services de vin et fromage, fruits, pain, terrine, porto et dessert, ainsi qu'un encan silencieux et soirée dansante. Honnêtement, c'est une super belle soirée. J'y ai participé également l'année dernière. Pour faire un don, vous procurez vos billets, visitez le richelieuquebec.org. richelieuquebec.org. Après cette courte pause dans l'émission On en jase sur Boulevard 102, on s'entretient avec Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère municipale pour le Parti Québec Fort et Fier dans le district numéro 1 de Cap-Diamant. Elle va venir nous expliquer les modifications, le plan de revitalisation qu'on veut faire concernant la place Diouville. J'ai lu ça en fin de semaine. C'est un plan qui me charme, moi, comme petit cul de Québec. Donc, vous le savez, ici à l'émission On en jase à Boulevard 102, on présente les bons coups de chacun des partis politiques et c'est exactement ce qu'on va s'apprêter à faire avec Mme Coulombe-Leduc. Après cette courte pause, vous êtes sur Boulevard 102. C'est l'émission On en jase.
À 14h, On en jase.
Il est présentement 13h07. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, émission qui va se terminer à 14h comme à chaque jour. Par la suite, c'est le retour de Gravel qui prend place de 14h à 18h avec Denis, Audrey et Véro. 18h à 19h, c'est Marceau le soir. Aujourd'hui, Pascal Paradis, député de Jean Talon, qui sera là comme invité. Et on repart ça demain matin avec Marceau le matin, accompagné de moi et Max Larouche. Et Max Larouche qui a son point de max de 10h à midi. À la météo, 15 degrés généralement ensoleillé. On atteint le maximum 11 degrés généralement nuageux pour demain. Et 11 degrés alternance de soleil et nuages. Donc encore des superbes belles journées d'automne ici sur Québec. On est choyé côté température. Vous le savez, Mathias, tu le sais, j'aime ma ville.
Oui.
J'aime ma ville de Québec.
Je pense qu'on commence à savoir.
Je suis un de la Basse-Ville. J'ai toujours habité Québec et je suis fier d'habiter Québec. Et cette fin de semaine, quand j'ai regardé les annonces au niveau de la campagne municipale, je suis tombé sur une annonce de Québec Fort et Fier où on parle de revitaliser Place Diouville. Puis là, j'ai fait quelle bonne idée, parce que Place Diouville, à part le diamant qui s'est ajouté, il y a une couple d'années, puis le vieux Capitole qu'on avait rénové dans les années 90, me semble que ça n'a pas trop bougé dans le temps. Donc, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée. Mélissa Coulombe, le Duc, conseillère municipale, justement, pour le Parti Québec Fort et Fier dans le district de Cap-Haut-Diamètre avec nous pour en parler. Mélissa, merci beaucoup de ta présence.
Ça fait plaisir. Bonjour.
Bonjour. Comment est venue l'idée de revitaliser la Place Diouville?
Bien, ça fait un moment qu'on a ce souhait-là. D'ailleurs, si vous regardez les documents des dernières années de nos demandes prébudgétaires, entre autres au gouvernement du Québec, Place Diouville en faisait partie. Place Diouville a une quarantaine d'années. Là. Donc, on veut commencer... on a commencé, dans le fond, dans les derniers mois, dernière année, à le mettre sur le radar. On pense que c'est une place là, qui a besoin d'un petit peu d'amour.
Oui, en effet.
Dans le contexte où, éventuellement, le tramway va passer, il va y avoir une station sur Honoré-Mercier, dans le fond, à la hauteur de la rue Saint-Jean, bien, le terminus de RTC ne sera plus nécessaire là, à cet endroit-là. Donc, ça donne une opportunité. Puis là, bien, vous savez, dans les derniers mois aussi, ça, ce qui a précipité ça, le stationnement de Place Diouville, qui est possédé par la SQI, la Société québécoise d'infrastructure, pour, qui est en mauvais état aussi. Ça nous a même obligés, à cause de la capacité portante du stationnement, à fermer, dans un sens, la rue Dauphine. Hein?
C'est vrai, c'est ce que j'ai vu.
Donc, ça, c'est à cause de la structure là, du stationnement souterrain qui appartient au gouvernement du Québec, là, qui n'est pas en bon état. Donc, ça précipite aussi les besoins. Puis quand on parle donc du réaménagement de Place Diouville, bien, le stationnement aussi en fait partie.
Grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? J'ai entendu verdure, justement, refaire l'entrée du stationnement. Parce qu'on s'entend être piéton dans ce coin-là, c'est pas vraiment, mais vraiment pas évident. Non. Il y a des autos qui arrivent des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement?
Concrètement, donc, on veut revoir la fluidité, les accès, dans le fond, entre autres, à Place Diouville pour le stationnement. Puis là, vous l'avez mentionné, c'est comme une espèce de, j'ai envie de dire, de terracotta, là.
Oui.
Tu sais, la dalle qui a été choisie.
En effet.
Puis, je pense qu'ils ne l'avaient pas testé en hiver. Parce que moi, je passe là à peu près à tous les jours l'hiver.
Elle a de la misère avec le calcium.
Puis c'est super glissant.
Oui.
Puis là, ben, si vous projetez ça, là, quand on sort du stationnement comme piéton puis qu'on veut m'aller, mettons, au Diamant ou au Capitole.
C'est une bonne pente, là.
Il y a une petite pente, là.
Ah
fait
oui.
Que ça, c'est super dangereux l'hiver. Fait que revoir ça. Il y a une opportunité aussi de verdissement, de déminéralisation, parce qu'en ce moment, il y a zéro arbre. Ou ce qu'il y a comme arbre, ben, c'est des arbres qui ont atteint leur capacité parce qu'en souterrain, ils n'ont pas d'espace. Il y a tout le secteur aussi, comme je le disais, du terminus de RTC. Donc, revoir les déplacements, revoir l'accès au stationnement, revoir la fluidité. Est-ce qu'on en profite pour avoir une espèce de petit arrêt de navette, comme le maire parlait, pour faire la boucle vers la place d'Hôtel de Ville, vers le château Frontenac, vers la Basse-Ville aussi? Est-ce qu'on en profite? Donc, verdissement, on sait que la patinoire est beaucoup appréciée. Puis d'ailleurs, là, t'sais, on en parle. On a commencé les discussions avec les différents partenaires du milieu. Quand on parle des partenaires du milieu, on parle du secteur hôtelier, on parle d'industrie touristique, on parle du milieu culturel, parce que trois institutions culturelles qui sont situées sur Place Diouville, les citoyens, les commerçants. Donc, on a commencé là, à avoir des discussions préliminaires avec eux. Fait que le projet comme tel n'est pas arrêté puis définitif aujourd'hui, mais c'est des grands objectifs qu'on fixe. Donc, mobilité, verdissement, la patinoire? Est-ce qu'on peut éventuellement aussi redonner des lieux aux citoyens, des espaces publics? Donc, c'est tout ça qu'on va avoir.
Est-ce qu'on pourrait agrandir aussi les aires pour des événements spéciaux, exemple pour le marché de Noël de l'Allemagne?
Bien, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas? Les infrastructures, quand on a le fédéral, en fait, mm-hmm. la place Georges V, là, sur Grande Allée, tu sais, une des opportunités qu'il y avait, c'était de revoir aussi en souterrain tous les équipements pour justement les grands événements, des projections, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un besoin qu'on a à Place Douville qui n'est pas du tout adapté là, à 2025 en termes de grands événements. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait, puis là, je pose la question, devenir un peu l'équivalent de notre quartier des spectacles à Québec?
Ah, ben oui, quelle bonne idée. D'ailleurs, il manque de petites salles de spectacle. Moi, je me souviens du Cachemire, du Dauteuil. Il y en manque dans ce place-là, là, présentement.
Ben, c'est vrai que dans ce secteur-là, les petites salles comme ça, ouais. ils sont disparus, mais il reste qu'il y a le Palais Montcalm, il y a le Capitole, il y a le Diamant aussi.
Ouais.
Dans un secteur quand même, puis là, on s'éloigne un petit peu, mais pas trop. T'sais, on a le secteur Méduse, on a la Nef, on a le Grand Théâtre, on a le Périscope, on a
c'est vrai, je suis trop demandant, finalement.
C'est pas le même genre de salle, j'en conviens, mais c'est vrai que c'est des petites
salles. Oui, c'est ça. Moi, je cours plus là. Les shows, ça pue un peu le tour de bras. Là.
Ben,
c'est
sur
ça,
Saint-Joseph, il y a une coupe de salles.
Oh, oui, le bar Lanty, le Grizzly ouais. Fuzz. Je m'amuse là pas mal de fois par année. On est avec Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale pour le district Cap-Taux-Diamant pour Québec Forte et Fière. Réagissez 418-971-101. Envoyez-nous des propositions pour Place Diouville. Comment vous voyez le réaménagement de votre Place Diouville? Moi, je vois vraiment un espace. C'était avec le taxi terminus du RTC, on a un espace plus vivant, là, justement, plus pour créer fait. Des événements. Là, c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Mélissa, tu as parlé du tramway, justement, qui va déplacer le terminus du RTC. Comment on prévoit communiquer puis discuter avec les commerçants? Parce que, veux pas, les travaux vont amener certaines problématiques dans le secteur le temps que ça se fasse.
Oui, ben, toutes les fois qu'il y a des travaux, là, que ce soit des travaux majeurs ou quand on refait des rues, quand on a refait la place de l'Hôtel de Ville, il y a des rencontres avec les commerçants, avec les citoyens. Il y a une équipe info-chantier aussi qui se met en place. Les gens ont une personne dédiée à la ville, responsable du chantier. Donc, à toutes les fois que c'est des chantiers ville ou sous la responsabilité de la ville, il y a ce déploiement-là là, qui se fait au niveau mm-hmm. De nos équipes. Là.
Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va travailler avec les commerçants. Est-ce que tu sens qu'il y a des craintes au niveau des commerçants de dire « Hey, crime, je risque de perdre la business pendant plusieurs années » ou pour le moment, ça se passe bien?
Bien, les gens, c'est encore dans quelques années. Mm-hmm. Ben, en fait, ça va s'échelonner sur quelques années, les oui. travaux du tramway. Mais tu sais, c'est pas un inconnu, là. C'est connu issu de tout le monde. Puis au fur et à mesure qu'on va cheminer là-dedans, là, c'est sûr que le calendrier n'est pas précis comme tel en ce mm-hmm. moment, mais au fur et à mesure qu'on va cheminer là-dedans, on va aller de manière chirurgicale rencontrer... les gens là, concernés par des secteurs plus spécifiques. Là.
Plus spécifiques. Comment tu vois l'été, la rue Saint-Jean est piétonne? Puis moi, je suis très bien raide, là. Je me
promène. Dans le vieux ou dans Saint-Jean-Baptiste? Là,
dans le vieux
ouais,
Québec.
Ouais.
Quand c'est le marché de l'Allemagne Noël, elle n'est pas nécessairement... On voit-tu justement plus d'événements pour la mettre piétonne, que ce soit carnaval, marché de Noël, l'Allemagne. Il me semble que c'est extraordinaire pour la ville quand elle est piétonne.
Tout à fait. Puis, tu sais, la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec, là, elle est piétonne depuis, j'ai envie de dire, une quinzaine d'années ouais. facile. Là, puis, je pense qu'il n'y a plus un commerçant sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec qui retournera en arrière. Maintenant, on l'a testé hein, dans les quatre dernières années, la rue Saint-Jean, durant le marché de Noël allemand l'hiver.
Ouais.
Je sais que les commerçants le souhaitent. Puis tu sais, il faut être allé là, l'année passée au marché de Noël allemand dans le Vieux-Québec pour voir à quel point ça amène du monde.
C'est capoté. Moi, je suis rendu un fan fini du marché allemand de Noël depuis 3 ans. J'en reviens pas de l'ambiance que là, du monde qui sont présents, de la quantité de choses qu'on peut manger, boire,
ça amène des défis.
Acheter. Oui, ça c'est clair parce que la ville, là, le vendredi, là, à partir de 4h30, est complètement congestionnée. Là,
tout à fait. Puis moi, j'habite dans Saint-Jean-Baptiste. Là, ouais. Ça refoule jusqu'à l'église.
Ah, c'est sûr!
Les fins de semaine.
Avez-vous des plaintes de résidents?
Il y a des craintes dans le sens où, en termes d'accessibilité pour les résidents, mm-hmm. Ça devient très complexe. Donc là, on arrive à un point où ça a beaucoup grossi, puis il faut penser en termes d'accessibilité, justement, puis tout ça. Est-ce que le fait d'amener Saint-Jean rue piétonne peut nous aider? Peut-être, il faut l'évaluer. On l'a déjà testé. Le défi qu'on a, c'est que si, mettons, on la met piétonne une fin de semaine au complet, ouais. puis qu'il y a une tempête de neige...
Ah, là, le déneigement, ça, c'est vrai.
Bien, c'est
maudit
ça. Faut penser à ce bout-là. Mais tu sais, à l'impossible, nous l'avons tenu.
Oui. J'ai assisté à une conférence de presse, peut-être il y a un an environ, rachat de l'église Saint-Jean-Baptiste. On en est où avec le projet?
On attend le plan d'affaires de Raymond Chabot, Grant Thornton, okay. d'une semaine à l'autre. On se rappelle, là, dans le fond, on avait rendu public une étude de préfaisabilité. Là, je vais de mémoire, là, je pense que c'est en avril 2023. C'est un document qui est public.
Parfait.
On poussait le plan de l'étude de préfaisabilité un petit peu plus loin. On faisait faire un plan d'affaires. L'objectif, hein, pourquoi on fait faire un plan d'affaires, là? C'est parce qu'on... on rachète un bâtiment patrimonial exceptionnel. On veut le convertir, mais on veut que ça génère un minimum de revenus. Mm-hmm. Okay? Parce qu'il va y avoir des coûts quand même importants là, à entretenir ce bâtiment-là. Donc là, il y avait une triple vocation qui était sur la table. Vocation communautaire qui est super importante pour nous. Puis c'est l'objectif premier pourquoi on l'a racheté. Sous-sol, refaire des espaces communautaires. Il n'y a plus d'espace communautaire dans Saint-Jean-Baptiste hein, depuis que l'église est fermée. Puis après ça, voir comment on est capable d'avoir une vocation culturelle, touristique pour la nef, le haut.
Ouais.
Donc, on finalise, Raymond Chabot finalise le plan d'affaires. Là, les gens me demandaient, mais pourquoi c'est si long? On se rappelle qu'à un moment donné, c'était plus nous qui l'achetaient. Hein?
Non, c'est ça.
Il y avait une communauté copte là, qui voulait se porter acquéreur. Donc, on avait mis notre plan d'affaires sur la glace à ce moment-là parce qu'on se disait, bien là, c'est plus nous autres qui va l'avoir.
Puis nous autres, ça va être au privé. C'est le privé qui va le développer.
Mais là, finalement, fait qu'on a réactivé tout ça quand on l'a racheté au mois de septembre passé.
Donc, c'est impressionnant d'avoir une espèce de principe de mixité sociale avec peut-être de l'aide aux itinérants dans le volet communautaire?
Bien, quand l'église était encore ouverte là, jusqu'en 2015, mm-hmm. là, il y avait une distribution alimentaire qui se faisait là, par la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et qu'éventuellement, est-ce que la Société Saint-Vincent-de-Paul pourrait revenir? Assurément. Donc, c'est quand on parle de redonner le sous-sol pour des besoins communautaires, bien, c'est aux différents organismes. L'école à côté aussi qui pourrait tenir des activités. On a des organismes communautaires qui voudraient faire de la cuisine collective. Il n'y a pas d'espace nécessairement dans Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est à tous ces besoins-là là, qu'on veut répondre. Mm-hmm.
Je termine l'entrevue avec, et on parle avec Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère municipale pour le district Cap-aux-Diamants. On a beaucoup parlé des femmes en politique. C'était pas facile avec les médias sociaux. J'ai fait beaucoup d'entrevues justement avec des femmes en politique. Je suis super content que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu as décidé de te représenter pour un deuxième mandat. J'aurais envie de te poser la question. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, écoute, on est venu poser beaucoup de jalons, j'ai envie de te dire, dans Cap-aux-Diamants dans les quatre dernières années. On vient de parler du rachat de l'église.
Oui.
Mais la racheter, j'ai envie de te dire, c'était quasiment le plus simple. il reste à développer.
Le développer est plus complexe. Le fameux PODC, là, acheter, c'est facile, mais quand on est rendu à organiser le service qui va être dedans, c'est un autre paire de manches.
T'as tout compris. On a racheté aussi des bâtiments dans le Vieux-Québec. Plusieurs fois, je le dis, on veut ramener des résidents dans le Vieux-Québec, mais on ne fait plus juste le dire, on le fait mm-hmm. aussi. La Ville met la main à la pâte. On a racheté quatre bâtiments, là, l'école Saint-Louis de Gonzague avec le foyer Nazareth, le pavillon Colin, le bâtiment Artec sur la rue Saint-Jean. Donc ça, c'est des bâtiments qu'on a rachetés dans le but de faire du résidentiel là, mais le plus simple, c'était de les acheter. Là. Mm-hmm. T'sais, le plan d'action...
Je développe quoi? Du logement social, du logement abordable, j'ai-tu du logement haut de gamme?
Exact, avec qui je m'associe, tout ça. Mm-hmm. Tout notre plan d'action pour améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Québec, là, qui a une trentaine d'actions, il a été dévoilé à l'automne 2023. On vient de le mettre à jour, mais deux ans, c'est pas assez pour renverser des tendances qui sont très lourdes pour ramener du monde dans le Vieux-Québec. Fait que c'était pour ça, on est venu poser des jalons, des bases super importantes, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui, j'ai eu la réflexion. C'est sûr. Moi, j'ai trois enfants. Je me suis posé la question.
Oui, on en parlait hors d'onde.
Exactement.
Trois enfants qui font plein de sport. Ben, donc, t'es comme moi, tu cours partout tes fins de semaine.
Je veux pas les priver parce que j'ai fait le choix de faire de la politique. Il y a un climat aussi, c'est sûr, sur les médias sociaux. Mais je pense que c'est important, c'est important pour moi de continuer ce que j'ai commencé. Je sens que j'ai encore l'énergie, le goût, envie, nonobstant le climat qui existe. Mais je pense quand même, c'est ça qu'il faut faire attention à ce climat-là, parce que je suis convaincue que ça peut décourager des gens, de, peu importe, là, femmes, hommes, de faire de la politique. Puis je pense que, tu sais, les gens, parfois, ont la critique facile, mais, tu sais, on est toujours ouvert à des idées, à des bonnes idées, à une discussion constructive, tu sais. Fait que je pense que des fois, au lieu de voir le verre à moitié vide, bien, posons-nous la question, comment je peux amener le verre à moitié plein, puis quelle idée je peux amener, puis peut-être que ce ne sera pas une bonne idée au final, puis... Mais au moins, on va en avoir parlé et on va en avoir débattu.
Oui, discutons de façon intelligente, voilà. J'aurais envie de dire. Je termine avec ça. Est-ce qu'il y a une belle solidarité au sein des élus municipaux féminins, peu importe le parti politique?
J'aurais tendance à dire que oui. Puis, tu sais, la cohorte de 2021, on l'a rajeuni.
Ouais, vraiment?
On l'a féminisé.
Oui.
Et on a beaucoup de parents aussi d'enfants d'âge scolaire dans la cohorte.
C'est là, vrai.
Qui se termine. Là, je l'avais compté à un moment donné. Là, je pense qu'à l'ensemble du conseil, on avait une quarantaine d'enfants.
Bien, c'est fou, ça.
Oui.
Mais c'est tellement beau. Et félicitations de le faire, parce que je sais qu'avec des enfants, c'est pas évident de faire de la politique. Fait que, waouh, je trouve ça génial. Je pense que c'est pour nommer quelqu'un d'un autre parti, Véronique Dallaire,
exact.
Des jeunes enfants
exact.
Également.
Exact. On est celle-là avec. Tu sais, bon, Claude et Jackie ont des enfants d'âge préscolaire.
Oui.
Mais je pense Véronique puis moi, on est celle qui a les enfants dans les mêmes âges, à peu près, là, trois, elle aussi, de mémoire. C'est ça que je lui disais d'ailleurs à la fin du dernier conseil, que je pense que celle qui peut peut-être le mieux comprendre la réalité, qui comprend le mieux dans le fond la réalité de parents avant politique, c'était elle. Voilà.
Cool. Mélissa Coulombe-Leduc, merci beaucoup de t'être présentée à l'antenne de Boulevard 101. Merci de nous avoir parlé de ce beau projet-là de la place Dioville.
Merci
et puis,
à vous.
On te souhaite une excellente fin de campagne municipale.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bye. Alors, c'était Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale pour le district Cap-aux-Diamants pour Québec Fort et Fier, qui se représente là, pour un deuxième mandat pour l'élection du 2 novembre prochain. Ça me fait penser, ne manquez pas le 2 novembre en soirée. Mathias, on va être là pour la soirée électorale sur Boulevard 102.1. Alors, j'aurai le plaisir de l'animer avec Farnel Maurice, avec Antonine Iacarini à l'analyse, Maxime Larouche qui va être au résultat, Matt, tu vas être sur le terrain comme tu avais fait aux élections fédérales,
oui.
Pascal CV devrait être sur le terrain avec nous autres aussi.
Oh,
donc, bref,
okay.
Audrey Pinchot.
On va être deux sur le terrain.
Oui, mais... Audrey Pinchot qui va être la pieuvre régisseuse qui va me dire « Jeff, un tel en entrevue là, Jeff, Mathias, je veux te parler, Jeff, il y a un auditeur qui pose telle question. » Donc on va avoir bien du fun, on va être en onde à compter de 19h30 et ça jusqu'au discours. Cours le gagnant là, du prochain maire ou mairesse là, de Québec.
On va être équipé le 2 novembre prochain. Donc, si vous voulez suivre la soirée, si vous voulez suivre la soirée électorale de la ville de Québec, je pense que la meilleure place pour le faire, ça va être Boulevard 101. Puis, de toute façon, en général, si vous voulez être informé pour la campagne électorale de la ville de Québec, Boulevard 101, c'est la meilleure place pour
exactement.
Le faire.
Exactement. Et parlant de ça, c'est qu'il y a Québec, mais il y a Lévis aussi qu'on va couvrir dans cette soirée électorale-là. Et c'est mardi prochain, 21 octobre, midi. Les trois candidats à la mairie de Lévis, c'est-à-dire Serge Bonin pour Repensons Lévis, Stephen Blainey pour Prospérité Lévis et Isabelle de pour Lévis Force 10, l'ancien parti municipal de Gilles Lehaulier, seront en onde pour débattre. Pendant à peu près une petite demi-heure, trois quarts d'heure, on va parler de développement urbain. On le sait, c'est un gros enjeu à Lévis présentement avec le moratoire, mais aussi de développement économique. On va parler de mobilité, de qualité de vie et de finances publiques. Là, la dette à Lévis a vraiment explosé dans les dernières années. Donc, les candidats, puis de la façon qu'on va le faire, pour pas là, que ça devienne juste du bruit puis que vous comprenez rien ce qui se dit, là, on va faire des duels. Donc, pour chaque thématique, les participants vont vous présenter leur point de vue pendant une minute et par la suite, on va mettre les participants en duel pendant deux minutes. Donc, exemple, Serge Bonin contre Isabelle Demers et après ça, Serge Demain contre Stephen Blainey et on finit avec Isabelle Demers contre Stephen Blainey. Donc, vous allez être en mesure de mieux comprendre les propositions de chacun.
Bien, je pense que c'est ça le but d'un débat. Je pense que le but d'un débat, c'est pouvoir comprendre ce que les candidats disent. Fait que, je pense que cette formule-là, ça va être de loin la meilleure. Puis, ça fait tellement longtemps longtemps qu'on n'a pas eu une vraie élection municipale, parce qu'on en a eu des élections municipales à Lévis, mais je parle d'une vraie élection où il y a vraiment une course, puis des candidats, différents candidats pourraient gagner, pourraient devenir maire de Lévis. Je pense que c'est important de s'y intéresser, puis on va, du côté de Lévis, essayez de battre votre taux de participation, le faible taux de 44 % des dernières élections. Là, mobilisez-vous pour votre candidat parce qu'il y a du beau choix à présenter.
Ah oui, pas mal convaincu qu'on va le battre parce que tu l'as dit, il y a trois excellents choix. L'air Leaulier derrière les résidents de Lévis, puis ça va être le temps de se positionner pour le prochain 4 ans. Puis honnêtement, écoutez le débat sur nos ondes à midi mardi prochain parce qu'il y a des excellentes propositions de la part des trois partis politiques à Lévis. Puis je le répéterai jamais assez. Moi, j'aime ça dire que le monde fait des bonnes affaires. J'aime pas juste ça critiquer, puis c'est ce que vous allez entendre. Vous allez entendre des belles visions de Lévis de la part des trois candidats. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Joël qui mentionne que le parking d'Youville, lui, il va plus là parce que c'est vraiment pas praticable. Il a tellement raison. Puis ça, dans le plan de revitalisation de Place d'Youville, le parking, la sortie de stationnement-là. Tu sais, moi, là, je vois là, qu'on relocalise les taxis ailleurs. Il n'y aura plus d'autobus qui va être là, qu'on fasse une espèce de grande place qui va nous permettre de faire des événements encore plus majeurs, reliés avec le Diamant, le Capitole. Ça prend une vitalité dans le centre-ville de Québec.
Ben, c'est un emplacement touristique majeur pour la ville de Québec. Je veux dire, tout le monde connaît cette place-là. Puis des attractions, des endroits touristiques comme ça, ça ne s'entretient pas tout seul. T'as besoin d'aménager des infrastructures, t'as besoin d'en rénover certaines. Puis c'est important, je pense, d'intervenir à un moment ou à un autre pour dire, hey, on va. Cette place-là est haute pour nos touristes, est haute pour nos habitants, mais on va la rendre encore meilleure.
Exactement. Mathias, on en parlait en début d'émission. Il y a une très, 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 très grosse problématique d'eau présentement au Québec, puis je te dirais même au Canada. Hey, écoute, on va vider d'une piscine olympique aux deux secondes, le lac Ontario, pour renflouer le fleuve Saint-Laurent. Ça n'a aucun sens. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Puis ça va juste diminuer de quelques centimètres, le lac Ontario. C'est dire à quel point il y a de l'eau là-dedans. Mais chose certaine, te parler avec des agriculteurs, ça va pas bien de ce côté-là à raison du manque d'eau. Hein?
Oui, puis c'est un dossier que je t'ai amené la semaine dernière, que je voulais faire parce qu'on est dans la période des récoltes. S'il y a des agriculteurs qui nous écoute, normalement, le soya, c'est pas mal récolté. On s'en va récolter maïs, mais c'est une réalité qui est difficile. C'est un travail qui est difficile de base. Puis, t'es très, très dépendant de la météo, de l'environnement extérieur. Puis cette année, ça a été très difficile. Ça a été très difficile côté météo pour plusieurs raisons. T'es, on pense à la sécheresse. Mais je vous dis, là, on va s'en rendre assez compte, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Je me suis entretenu avec Mathieu Privé, qui est un agriculteur, qui est aussi un fournisseur de semences, donc de semences agricoles. Et c'est ça qui m'expliquait, là, les problèmes de température, ben, ils remontent directement au début de la saison.
On bénéficie pas d'une saison de végétation qui est terriblement longue. Tu sais, on pourrait quasiment qualifier ça d'agriculture quasiment nordique là, à partir de Québec. Là. On est dans les unités thermiques là, qui sont quand même assez courtes. Là. Malgré que j'ai des collègues qui sont dans le coin de Rivière-du-Loup aussi puis qui réussissent, mais on est vraiment dans les derniers là, à semer ici. Là. Fait que quand on perd deux, trois semaines là, de végétation là, pendant l'année, là, c'est quand même beaucoup là, quand tu répartis ça sur une saison de végétation qui est à peu près du 10 de mai à aller au 1er octobre. Là. Fait qu'on a à peu près là, un 4 mois là, de disponible là, sur 12 là, pour essayer de faire pousser des récoltes. Fait que son impact, si on en fait ça de 3 semaines, ben ça va diminuer les rendements là, nécessairement.
Puis pourquoi cette fameuse saison-là a été amputée de 3 semaines? C'est, rappelez-vous, au début de l'année, en mai, là, je vous ramène quand même, il y a de cela quelques mois, l'été avait été long à arriver. Il a fait froid longtemps, puis c'est le cas de le dire, il a vraiment fait froid longtemps. Donc, les agriculteurs, tant qu'il fait trop froid, tant que la terre gèle encore, puis qu'il n'y a pas une chaleur nécessaire...
On peut pas planter
les semences. Forcément, on peut pas planter les semences, ou les semences commencent pas à se développer, ça cause problématique. Rajoute à ça, directement au début de la saison, lorsqu'on a planté les graines, bien là, à un certain moment, on a eu de la pluie. Puis en plus, par la suite, on a eu de la sécheresse. Donc, comme M. Privé nous dit, c'est une accumulation un peu de tout ça qui a causé autant de problèmes cette année.
Au début, vu qu'il a mouillé beaucoup, qu'il y a eu beaucoup de précipitations, ben les plantes, eux autres, ils réagissent à ce temps-là. Là. Ça veut dire qu'ils se disent, bon, ben j'ai pas besoin de descendre mes racines trop profond. Fait que je vais garder mes racines en surface, vu que j'ai de l'eau pareil. Quand on arrive avec une sécheresse en fin de saison de même, ben les racines, ils ont manqué de développement. Là. Ils sont pas allés assez profondes pour puiser des réserves d'eau. Fait qu'on est quand même impacté de cette sécheresse-là là, encore plus durement là, quand on a eu une saison des pluies là, qui précède la sécheresse. Là. Puis en plus d'avoir la sécheresse, mais la saison des pluies qu'on a eue en partant, ça va beaucoup lessiver les nutriments. Là. C'est-à-dire que tous ces nutriments-là, à cause de l'eau, vont être dilués, ils vont être poussés plus bas dans la terre, puis là, les racines ne sont pas capables d'aller les puiser.
Ça n'a pas de sens comment les changements climatiques sont venus rendre la vie difficile de nos agriculteurs.
Ah, c'est ridicule. Puis comme il a expliqué, là, cette année, ils ont vraiment été malchanceux parce que, bam, énorme saison des pluies. Je vous ramène au début de l'été encore une fois. Ben là,
oui.
Ça arrêtait plus. On parle de sécheresse présentement, mais à cette époque-là, on se demandait, on va-tu avoir du soleil cet été ou non? Puis on parle de pluies énormes. Maintenant, sécheresse. Les plantes sont pas assez développées pour survivre, pour continuer à se développer malgré une sécheresse. Puis tu l'as dit, les changements climatiques, c'est un phénomène qu'on parle énormément. On voit un peu plus de sécheresse, des sécheresses oui. plus longues un
puis
peu partout au Canada.
Puis en même temps, on voit un 100 mm de pluie tombant 40 minutes. Puis oui. là, qui viennent inonder le champ complètement. Donc, c'est pas assez régulier pour eux, la température.
Oui, puis justement, monsieur Privé qui a dit que lui... Son gros constat avec ces changements climatiques-là, c'est vraiment la saison des pluies.
Bien, je te dirais que des pluies de 100 mm, là, à Wesden, les 100 mm, là, en une journée ou deux, là, on voyait moins ça avant. Là je pense que c'est plus régulier là, qu'on a quand même comme une saison des pluies là, qui est plus intense. Là. Mais par le passé, comme tu l'as dit, les 3-4 dernières bonnes années, là, on avait eu pareil des coups d'eau comme ça, sans trop impacter, là, même ça quand même, des fois ça recharge quand même la banque d'eau qu'on a dans le sous-sol. Là. Ça impactait, mais pas tant que ça. Mais cette année, c'est vraiment pire. Là. La température était plus froide plus longtemps aussi. Là. C'est le manque de chaleur, là, je pense, qui a impacté beaucoup aussi, là, qui est combiné avec beaucoup trop de précipitations.
Fait qu'en gros, parce que faut le mentionner, parce qu'on parle de changement climatique, on parle de situations climatiques de plus en plus difficiles pour les agriculteurs. Par contre, dans les 3 dernières années, à tous les agriculteurs à qui j'ai pu parler, que je connais, le constat est le même, on a eu une excellente saison, 3 excellentes saisons dans les 3 dernières mm-hmm. années, et ce malgré la pluie. C'est que cette année, on a vraiment eu une accumulation de plusieurs facteurs. Le froid, la pluie, par la suite, la sécheresse qui n'arrête pas.
Oui.
Donc,
exactement.
Ça,
on se souvient qu'au sortir de la COVID, la saison avait été très difficile, des champs inondés.
Ouais.
Mais là, 2022, 2023, 2024, c'est les bonnes années, mais malheureusement, cette année, on est revenu à une année
ouais,
difficile.
Oui, c'est ça. Puis le constat est même chez tous les agriculteurs, malheureusement, c'est un peu la réalité du métier aussi. On va connaître des années plus difficiles. Par contre, cette année, on a non seulement une baisse du rendement par acre, donc on a moins de grains à cause que le plant est moins développé. Mais, par exemple, le coût du soya aussi est très bas cette année par rapport aux autres années. Donc, c'est une année financièrement très difficile, nous dit M. Privé.
Ben oui, quand même. Parce que, écoutez-moi, le profit en agriculture se fait sur le 3-4% qui reste. Là, parce que les dépenses ont quand même beaucoup augmenté avec la pandémie et tout, là. Que ce soit les engrais, la machinerie, le taux horaire, un petit peu... C'est multisectoriel pour pas que ça a augmenté. Là. Fait que le fait que ça descende quand même beaucoup, là, on parle d'un soya qui va avoir autour de 500 $ la tonne et peut-être bien moins là, au niveau de la récolte. Là, j'ai pas les chiffres pour ce matin, là, mais c'est un petit peu en bas de 500 $. Puis on parle des années précédentes là, qu'on était en haut de 600 $, même des fois qu'on frôlait le 700 $. Là.
Donc, on est avec eux, les chers agriculteurs. Malheureusement, une mauvaise saison cette année en raison des changements climatiques. Puis ça fait justement partie, Mathias, de ce qu'on discutait tout à l'heure avec le manque d'eau, avec les infrastructures qu'on doit améliorer du côté des municipalités en région. Là, je faisais entendre un extrait tout à l'heure de Jacques Demers, le président de la Fédération des municipalités au Québec. Ça, les municipalités au Québec, c'est pas les grandes municipalités, c'est l'Union des municipalités. Fait que c'est vraiment les municipalités en région. On n'a pas le choix du côté du gouvernement de leur donner un coup de main. Là.
Ah oui, oui. Et puis, je veux dire, c'est la base de notre société, les agriculteurs. Donc, forcément, toutes nos pensées vont avec eux parce qu'une année difficile comme ça, eux autres, ils dépendent. Ils dépendent de leurs semences, ils dépendent de leur rendement avec leurs grains, avec ce qu'ils vendent pour justement amener leur nourriture sur la table d'année en année. Là. Une année comme ça, pour une famille d'agriculteurs moyens, ça rend la chose très difficile. Puis, présentement, on a beaucoup d'agriculteurs partout à travers la province que c'est difficile. J'ai contacté la financière agricole du Québec. Donc, qui assure des différents producteurs agricoles à différents montants, dépendamment de leur choix d'assurance. En date du 30 septembre, donc ça fait deux semaines, là, c'est les derniers chiffres que j'ai. En date du 30 septembre, 6664 avis de dommages avaient été demandés au programme d'assurance récolte. Jeff, une année complète, en moyenne, une année complète, on ne parle pas du 30 septembre, on parle à la fin d'année, 5000.
Donc, on est déjà pratiquement 2000 au-dessus.
Pratiquement 2000 au-dessus, puis ça, terminé. Ça fait deux semaines. Fait que là, dis-toi qu'il y en a, on peut presque rajouter un 1000 dans ces deux semaines-là. Ça va continuer. Ah non, vraiment, puis c'est ça. Ça. On leur souhaite meilleure chance l'année prochaine. Là, les semences doivent. Les récoltes finissent petit à petit. Là, après ça, le processus de préparation des terres pour l'an prochain va s'engager.
Exactement.
Des grosses semaines à venir pour les agriculteurs, puis malheureusement, parfois, pour peu d'argent fait.
Oui, donc on va leur souhaiter une meilleure saison l'an prochain, puis il faut vraiment adapter là, nos infrastructures pour permettre justement de faire face à ces changements climatiques. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Merci Mathias pour cet excellent dossier. C'était très, 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 très intéressant. On fait une courte pause à l'émission Nageur sur Boulevard 101. Par la suite, on revient avec un bloc sport complet. Hey, Zach Bolduc en a marqué un troisième en trois matchs en fin de semaine contre les Hawks. C'est la rentrée officielle du Canadien au Centre Bell ce soir face au Kraken de Seattle. On parlait des Jays. Ouf, ça n'a pas bien été les deux derniers matchs à domicile. Et deux autres surprises hier soir dans le football de la NFL. On s'en en finit plus d'arriver ces surprises-là dans la NFL. Quelle belle ligue paritaire où chaque match est important. On parle de tout ça après la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Il est présentement 13h45. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Votre émission du midi de midi à 14h et ça depuis le début du mois de septembre. Mathias Turcotte qui est avec moi encore pour les 7 prochaines minutes. Après ça, il va retourner aux études.
Ben, j'ai jamais quitté les études. Je tiens quand même à préciser. Je suis encore aux études techniquement. Je suis juste plus absent de mes études, mettons. On va le mettre comme ça.
En direct de Montréal, la métropole. Antonine Niakarini qui sera avec moi demain pour l'émission en entier. Et on reprend le tout avec Pascal CV, son retour du Kilimanjaro jeudi. D'ailleurs, ne manquez pas dans le segment Open Mic dans le Point de Max à 11h. Pascal qui sera présent avec Audrey et Max pour raconter son histoire extraordinaire de la montée du Kilimanjaro. Et c'est sûr qu'on va faire un retour également sur cette expérience magnifique. Je lève mon chapeau encore une fois à Pascal CV. Puis, si vous ne voulez pas manquer ça, justement, jeudi, la meilleure façon de nous écouter, c'est de télécharger l'application gratuite disponible sur Apple et Android pour avoir toujours BLVD à portée de main sur votre cellulaire. Écoutez BLVD en direct sur votre ordinateur au blvd.fm via sa web radio. Et si vous avez un haut-parleur intelligent, dites simplement « Écoutez BLVD 102.1 à votre Google Home ou Alexa et le tour est joué. C'est simple, pratique et toujours pas loin. Ça vous assure de rien manquer de nos meilleurs moments. Justement, Carl qui nous écrivait tantôt, il disait « Hey, le mardi prochain, on va être au Saguenay avec mon truck, mais c'est sûr que j'écoute le débat de Lévis. » Alors, on le rappelle, débat des trois candidats de Lévis sur nos zones midi le 21 octobre prochain. Mathias, avant qu'on passe au sport, deux petites manchettes à savoir dans l'actualité?
Oui, juste deux petits faits divers qui sont sortis durant à notre émission aujourd'hui. Tout d'abord, c'est sorti dans les dernières minutes, un homme habitant de la région de Québec a plaidé coupable à deux chefs d'accusation, soit contact et initiation de contact sexuel avec mineur. On parle d'un homme qui a avoué avoir violé sa belle-fille de 15 ans à plusieurs reprises, allant même jusqu'à la mettre enceinte. Donc,
aucun
cet homme-là,
sens.
Ça n'a aucun sens.
On peut l'envoyer en dedans.
Il va être envoyé en dedans pendant combien de temps la décision va être rendue. Il est également accusé d'un autre chef d'accusation, soit voie de fait, sur le petit frère de cette fille-là. Donc, sans commentaire, c'est ça. On peut l'envoyer en dedans, comme Jeff a dit.
À l'intérieur, puis la société va juste mieux s'emporter.
Je vais vous envoyer sur un autre fait divers. Cette fois-ci, une histoire qui s'est bien terminée. C'est la police de Québec qui a localisé une adolescente qui était disparue, mais pas ici, qui était disparue au Royaume-Uni. Donc, on a procédé à une vérification du secteur près de la chute Montmorency pour justement trouver cette jeune fille-là de 16 ans portée disparue au Royaume-Uni. On l'a localisée, elle était accompagnée d'un homme de 42 ans qui avait justement un mandat d'arrestation en lien avec la disparition de la jeune fille. Donc, on a retrouvé la jeune fille. Elle est en lieu sûr. On a arrêté l'homme de 42 ans qui devrait comparaître au palais de justice de Québec aujourd'hui.
Wow, bravo au service de police, au SPVQ, service de police de la Ville de Québec, à la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, et à la Sûreté du Québec. C'est incroyable qu'on soit capable de localiser une jeune fille qui, en apparence, a été enlevée par un homme de 42 ans, ici à Québec, près du parc des Chutes Montmorency, quand elle provient du Royaume-Uni. C'est exceptionnel comme travail.
Ah oui, puis je veux dire, la collaboration avec l'international, on va toujours saluer ça. Je trouve ça quand même exceptionnel, puis le travail qui s'est fait de là-bas jusqu'à ici, faut penser à ça, ces personnes-là, ils ont dit « notre fille qu'on recherche se trouve probablement au Québec ». Donc, il y a eu un gros travail d'enquête là-bas, il y a probablement eu un gros travail d'enquête ici pour réussir à localiser la fille et la placer en situation sûre.
Oui, parlant de gars qui livrent la marchandise.
La passe, elle est pour Suzuki, permutation avec Caulfield, vers Caulfield, le tir, bloqué le retour, et le but! Il est en feu! Zachary Bolduc dans un troisième match de suite.
Zach Bolduc et le Canadien qui reçoivent le Kraken de Seattle ce soir. Seattle, les deux victoires, aucun revers depuis le début de la saison. Excellent début de saison pour leur gardien de but, Joey Dakar. Mis à part Bolduc avec 3 buts, Nick Suzuki a 5 passes lors des 3 premiers matchs du Canadien. Et là, Lane Hudson vient de signer une prolongation de contrat de 8 ans. Bref, Mathias, tout va bien dans l'entourage du Canadien en ce début de saison. Et là, on a prolongé également aujourd'hui les contrats de Ken Hughes et Jeff Gordon. Coudon, ça n'a jamais aussi bien été à Montréal depuis quelques années.
Depuis quelques années, Jeff...
Quelques décennies.
Ouais, c'est ça. j'étais pas encore né, je pense, la dernière fois que ça a bien été de même, le Canadien. Non, mais pas vrai. Quel travail de Kent Hughes dans la signature du contrat de Lane Hudson. Personne n'aurait pu dire que ce gars-là allait être signé en bas d'un Luke Hughes ou encore d'un Jackson Lacombe qui viennent de signer.
Excellent.
8,85 millions pour 8 ans pour Lane Hudson, c'est exceptionnel. Le Canadien connaît un excellent début de saison, 3 bons matchs. On a perdu contre Toronto, mais faut dire, on a quand même bien joué. Zachary Bolduc qui se démarque, qui fait paraître Kent Hughes pour un génie dans cette transaction-là, alors que Logan Mailloux, ça va pas du tout à Saint-Louis jusqu'à maintenant. Donc non, j'ai très hâte de voir. Puis l'ambiance dans le premier match à domicile du Canadien est toujours exceptionnelle. Donc, selon moi, on va avoir tout un match ce soir.
Cérémonie d'ouverture et match sur les ondes d'RDS avec notre collègue Pierre Houde. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est 19h ce soir, Kraken de Seattle contre Canadien de Montréal. Une équipe a moins bien été au baseball ce week-end.
Shot to right center field. Varsho on the run. He's at the track. He's at the wall. Is owning October for the Mariners. He's given them a 6-3 lead.
Après une défaite de 3-1 dimanche soir, les Jays qui se sont inclinés 10-3 hier contre les Mariners de Seattle. Vous venez d'entendre le coup de circuit de Jorge Polanco. Alors que le pointage était égal à 3-3 en cinquième manche, il a frappé son troisième coup de circuit des séries. Polanco est rendu à 8 points produits depuis le début des séries. Les Jays qui s'en vont à Seattle pour poursuivre cette série 4-7 à compter de mercredi soir. Mais Mathias, ça sent pas bon.
Non, ça sent pas bon. Puis on a vu des Jays contre les Yankees avec une offensive redoutable. On parle de 10 points, de 13 points, de 6 points. Même le dernier match, on parle de 5 points. Donc, beaucoup de points contre les Yankees. Puis depuis qu'ils jouent contre les Mariners, ils se font complètement museler. Pas capables d'avoir l'offensive qu'ils sont capables d'avoir en temps normal. Donc, non, ça sent pas bon. Bon, on ferme jamais la porte. Ils sont pas éliminés, là, faut dire. C'est 2-0 dans la série présentement pour Seattle. Mais va falloir qu'ils se reprennent rapidement. Puis ça se passe demain soir.
Clairement. Et en terminant, je vous parle du joueur de l'heure dans la NFL. Second and 11. Going for a big ball. Down the field. Got an open target. Oh, what a catch! Touchdown, Tampa Bay! Tez Johnson has his first NFL touchdown and a magnificent flip to go with it. Qui aurait prédit ceci? Baker Mayfield, le corps arrière des Bucks de Tampa Bay, est maintenant candidat pour le joueur le plus utile après avoir été sacré d'or par les Browns de Cleveland et par les Panthers de la Caroline. 12 passes de toucher, une interception, 1539 verges par la voie aérienne, et ça malgré la perte de plusieurs receveurs de passes. C'est signe qu'il faut toujours persévérer. À 30 ans, Baker Mayfield est au sommet de son art.
Ah, il est plus arrêtable, puis je pense que depuis le début de la saison, tous les fans de football, là, vraiment, là, on a eu des matchs, là, mais je veux dire... J'ai jamais tant écouté le football. Cette année, je l'écoute plus parce que mon colocataire, c'est un grand fan.
Ben, pis t'as une bonne saison.
C'est ça, j'ai pogné la bonne saison pour commencer à plus écouter du football, mettons.
Exactement. Deux surprises hier. Les Bears de Chicago qui ont battu les Commanders 25-24 et 24-14 à victoire des Falcons sur les Bills. Nous, on est de retour demain à l'émission On en jase à compter de midi. Le retour de Denis Gravel suit un instant avec Véro et Audrey. Passez une belle fin de journée sur nos ondes. Et à demain, Mathias. Merci pour le remplacement de Pascal Sévé, c'était vraiment plaisant.
Ben, ça m'a fait plaisir, j'ai beaucoup eu de fun avec toi, Jeff, puis avec les auditeurs. Cool. Passez une belle journée, puis à la prochaine.
Excellent, on fait de la radio ensemble prochainement. Bye-bye, la gueule, le retour de Gravel arrive.